BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles tous les jours. Dans quelques minutes, on va parler de tracker, d'ETF, on va parler de cave, de box et de stockage. Et puis on va aussi parler investissement avec ses enfants dans l'émission. A tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
Bonjour à tous. Après un faux départ en octobre dernier, Planisware a réussi ce matin son introduction en bourse, la plus grosse IPO depuis 4 ans sur Euronext Paris. La société française de logiciels pour entreprises est valorisée à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Le prix d'une action est fixé à 16 euros. Sachez que le cofondateur et président de Planisware, Pierre de Monzan, sera l'invité d'Edwige Chevrillon ce soir à 18h10 sur BFM Business. La matinée a été riche en publications de résultats. Danone annonce un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros au premier trimestre, une baisse de 2,5% sur un an sous l'effet de son retrait de Russie et des taux de change. Mais le groupe fait mieux que prévu grâce à l'augmentation des prix et des volumes vendus. Forvia, de son côté, annonce une croissance organique de son chiffre d'affaires à hauteur de 3,1% au premier trimestre. Le fournisseur automobile enregistre des prises de commandes de 6,5 milliards d'euros, tirées notamment par le marché chinois. Chez les fabricants de semi-conducteurs, TSMC dépasse les attentes au premier trimestre. Son bénéfice net progresse de 9% sur un an à 6,5 milliards d'euros. Le numéro 1 mondial du secteur profite d'une vague de demande des puces électroniques utilisées dans les applications d'intelligence artificielle. Nokia publie un bénéfice net de 438 millions d'euros au premier trimestre, un bond de 52% sur un an. Le groupe voit pourtant ses ventes reculer de 20%, mais il résiste grâce à une gestion serrée de ses coûts. Edenred annonce un chiffre d'affaires opérationnel de 625 millions d'euros au premier trimestre, une hausse de 18,8% sur un an, des résultats meilleurs que prévus, portés notamment par les performances de sa plateforme Reward Gateway. Chez Total Energy, des actionnaires veulent en finir avec le cumul des fonctions de Patrick Pouyanné. Ils ont déposé une résolution en vue de l'Assemblée générale du 24 mai afin de séparer ses responsabilités de directeur général et de président du conseil d'administration. Les actionnaires en question espèrent une meilleure gouvernance et des engagements plus ambitieux sur le climat. Dans l'actualité internationale, la Chine accuse Joe Biden d'hypocrisie. Cela fait suite aux propos du président américain hier. Il reprochait à Pékin d'être xénophobe et de tricher dans le commerce mondial sur l'acier et l'aluminium. En réaction, la Maison-Blanche envisage de tripler les droits de douane sur les produits sidérurgiques chinois. Enfin, les ministres des Finances du G7 condamnent l'attaque de l'Iran contre Israël le week-end dernier. À l'issue d'une réunion hier, le groupe s'engage à coopérer sur les sanctions contre Téhéran. Il promet aussi d'exploiter au maximum les actifs russes gelés afin d'aider l'Ukraine. De son côté, l'Union européenne va imposer de nouvelles sanctions contre les producteurs de drones et de missiles iraniens.
Merci Johan, on vous retrouve dans une heure.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, vous êtes dans Tout pour investir, l'émission qui s'occupe de votre culture financière quotidienne. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours de 10h à midi. Et puis on est en podcast. Salut à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes jeudi 18 avril 2024. Au programme de l'émission, sommes-nous en train de passer d'une économie du divertissement à une économie de la dopamine, avec des dealers qui s'appelleraient Meta, Alphabet ou encore TikTok. Johan Lopez de Snowball va nous expliquer l'impact sur notre santé et sur nos investissements de cette économie dopaminée. À 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours avec Nicolas Dose qui va nous décrypter le rapport de la Cour des comptes au vitriol qui n'a jamais été aussi loin pour dézinguer les promesses économiques. Côté bourse, c'est Antoine Larigauderie depuis Euronext qui est déjà branché et nos deux traders qui sont en train de se connecter pour le match des traders. On vous coach aujourd'hui. Immobilier, faut-il investir dans une cave, dans un box, dans un espace de stockage? Et oui, la question se pose, si vous avez un petit peu de cash, on vous dira si c'est une bonne ou une mauvaise idée. L'humeur des investisseurs financier est particulièrement changeante en ce moment. Franklin Pichard de Kipling Finance va nous dire que c'est beaucoup trop tôt pour juger la saison, mais que quand même on peut dire que le pire est passé. Rendez-vous pour son sentiment de marché d'ici 25 minutes. Et jeudi, on parle d'ETF, double dose de tracker aujourd'hui. D'abord, notre CGP du jour, Géraldine Métifeux d'Alter Egal, va nous dire comment souscrire aux ETF crypto par des ETF lambda. On va en parler dans une dizaine de minutes. Et puis vers 11h30, c'est Jérémy Tubiana de BNP Paribas AM qui va nous aider à investir efficacement avec les trackers. Tour d'horizon du marché de ces ETF qui grossit pour répondre aux besoins d'une clientèle qui devient de plus en plus retail. Puis aujourd'hui, on investira différemment. On investira en famille pour un avenir durable. C'est Brune Ribadeau-Dumas de Kimpa qui va nous expliquer comment impliquer sa progéniture, ses enfants dans l'investissement à impact positif. Dans cette émission, il y a vous, chers auditeurs, auditrices. Vous nous écrivez pendant toute l'émission. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn. Je suis connectée, je vous lis. Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur vos impôts. Nous allons prévoir un question-réponse spécial impôt, je pense, d'ici quelques jours pour pouvoir répondre à vos questionnements. On part du côté d'Euronext, rejoindre Antoine.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Antoine, on vous retrouve sur fond de vert. Une belle progression du CAC 40 ce matin qui surperforme le reste de l'Europe. Pour ceux qui nous suivent en image, vous voyez la carte derrière nous.
Oui, effectivement, et encore une fois, au milieu des incertitudes monétaires, des climats un petit peu compliqués qu'on peut traverser sur les marchés ces derniers jours, on peut encore faire confiance aux entreprises pour nous délivrer de bonnes surprises, de bons chiffres. Le CAC 40 gagne 0,48%, on est à 8019 points. C'était pas donné quand on reconquiert les 8000 à l'ouverture, puis on a eu une belle impulsion haussière juste avant l'ouverture des marchés. Il y a eu les bons résultats de Nokia, de TSMC, qui permettent déjà d'avoir cette tendance positive, et puis on le voit bien plus positif qu'à Francfort, qui ne gagne que 0,18%, l'Eurostock 50 plus 0,39%. Alors les bonnes nouvelles du jour, on en a beaucoup parlé tout ce matin, Edenred avec ses chiffres trimestriels, le titre gagne 4,5% à 46,80€. Il y a Danone aussi qui a rassuré avec ses résultats, ses perspectives, le titre gagne 1,5% à 59,42€. Et Sylor Lussotica plus 1,5% à 204,20€. Puis à noter Forvia aussi, auteur d'une très belle performance, plus 5,5%. On est à 14,28€. Alors cela dit, on a eu les résultats de TSMC, le leader taïwanais des semi-conducteurs. C'était un petit peu avant l'ouverture des marchés. Alors des chiffres un petit peu compliqués à interpréter, mais du coup les principaux titres des semi-conducteurs en Europe sont en baisse. On reste aussi dans le siège des mauvaises nouvelles en provenance d'ASML, publié hier. STMicro signe la plus forte baisse du CAC à moins 0,57% à 37,83€. Non, c'est Thales qui désormais signe une baisse de 0,7% à 156€. En revanche, alors lourde baisse pour Sartorius Stedim, la biotech qui perd 15% à 211,50€ après des chiffres vraiment décevants. Pour le premier trimestre, on a Française des Jeux aussi qui est vendue, moins 3,5% à 35,38€. Et puis, mention spéciale pour Planisware, la plus belle introduction en bourse depuis un petit peu plus de 3 ans, ici à Euronext Paris. La dernière de cette dimension, c'était OVH Cloud. Là, on a un spécialiste de la gestion de projet pour les entreprises qui est valorisé à plus d'1,1 milliard d'euros. Mais alors, succès immense pour le titre qui commençait à coter à 16€. Là, on est à 20,18€. C'est une hausse de 26,1%. Donc, introduction vraiment très réussie pour Planisware. Le CAC 40, plus 0,47%, est à 8019. Et du côté de l'euro face au dollar, on est globalement robuste. Aux portes d'1,07, on a un euro-dollar qui cote à 1,0680, très exactement.
Merci beaucoup Antoine. Deux rendez-vous d'abord avec vous dans une heure. On reviendra sur cette entrée en bourse, sur cette IPO de Planisware réussie. Et puis son patron Pierre de Montsant sera au micro de Guillaume Paul et d'Audrey Tcherkov vers 18h. Et Début Chevrillon, on décortiquera avec lui ce succès, cette entrée en bourse de cet éditeur de logiciels en gestion de projet. A tout à l'heure Antoine. Pour l'heure, c'est le moment de faire le point sur les actus patrimoniales qui vous concernent.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef ce matin, nous l'avons piqué à l'équipe Snowball. Bonjour Johan Lopez.
Bonjour Lorraine.
Aux manettes de cette newsletter financière avec nous le jeudi pour souligner des actualités qui nous concernent. Nous allons commencer par parler de nos ados. Ouais. Des adolescents qu'il faut regarder de près pour savoir comment investir. Racontez-nous.
Oui, en effet, les ados, c'est un peu les consommateurs principaux de demain et c'est aussi des ados qu'il faut suivre parce que les tendances chez eux, en général, ça peut se diffuser aussi dans le reste de la population. Donc en fait, chaque semestre à peu près, il y a une banque donc, qui s'appelle Piper Sandler, donc une banque américaine qui prend le pouls de ces ados. Et ils nous sortent des stats qui sont assez intéressantes. Et là, donc, je voulais en partager quelques-unes avec vous que j'ai trouvées plutôt fascinantes pour certaines et intéressantes pour d'autres. Donc, on sait que Nike, par exemple, reste la première marque préférée des ados sur le côté des chaussures. Mmh. Mais on a une forte montée en puissance de New Balance. Donc ça, c'est assez intéressant quand on s'intéresse à l'univers du footwear. Et dans le secteur de la beauté, on voit que c'est quand même encore une forte priorité chez les ados. Donc les dépenses ont atteint un record depuis 2018. On est à $339 par an dépensé. Et majoritairement, ces dépenses se font en physique, donc pas encore en e-commerce.
On va au magasin pour se maquiller et pour se parfumer.
Exactement, ce qui semble assez logique, mais 85% des ados préfèrent les magasins. Ensuite, du côté des réseaux, on pensait que Insta était en perte de vitesse, mais en fait non. On voit une forte remontée, donc plus 7% donc par rapport à TikTok, qui lui chute, mais qui reste donc l'app des réseaux sociaux préférée des ados, mais second Instagram, qui revient assez fort. Ensuite, stat très intéressante, il y a un tiers des ados qui ont un casque de réalité virtuelle. Donc c'est assez énorme, c'est 3% de plus que l'automne dernier. Donc il y a peut-être un effet Apple Vision Pro.
Un ado sur 3 aux États-Unis qui est équipé d'un Vision Pro ou
non, pas Vision Pro peut-être pas, mais
oui,
plutôt
ou équivalent peut-être moins cher.
Exactement, ouais, moins cher, ouais. Et ces ados, l'utilisation a aussi augmenté. Donc il y en a 31% qui vont l'utiliser une fois par semaine, ce qui est assez énorme. Donc on voit que ça prend un peu. Et la stat que j'ai trouvée assez fascinante, c'est le taux de pénétration de l'iPhone chez les ados. Donc on a 85% des ados qui ont un iPhone et il y en a 86% qui pensent acheter un iPhone pour le prochain téléphone. Donc c'est vraiment énorme, je trouve.
Voilà, les amoureux de la marque et qui ne veulent pas sortir de l'écosystème iPhone. Non. Très intéressant cette petite revue de chiffres. Un mot, puisqu'on parle de dépendance à Apple, nous allons parler d'une économie de la dopamine. C'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. On est en train de passer d'une économie du divertissement, tout simplement, à une économie hormonale, de la dopamine. Expliquez-nous.
Ouais, c'est ça. En gros, on voit qu'aujourd'hui, tout semble aller plus vite. Et ça, c'est Ted Gioia qui nous parle de ça. Il nous dit qu'on est passé d'une industrie du divertissement à une industrie donc de la distraction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est du swipe, du scroll, tout est fait pour être consommé très rapidement. Donc, on le voit partout, ça. On peut le voir dans le sport. Avant, on jouait un sport. Aujourd'hui, on parie. Avant, on lisait des articles de journaux un peu plus longs. Aujourd'hui, on va lire tout ce qui est un peu plus clickbait.
Avant, on regardait un match en entier. Maintenant, on regarde les meilleurs moments.
Exactement, c'est ça. Donc, il y a plein de choses. Avant, on regardait des films, des séries télé. Aujourd'hui, on passe essentiellement notre temps à regarder des reels sur TikTok ou sur Insta. Donc, c'est vraiment... Voilà, tout va plus vite. Et en fait, ça, c'est pas une tendance parce que notre cerveau, il a vraiment un terreau, on va dire, addictif. Donc, en fait, ça va être assez difficile d'en sortir, je pense, on pense. Et donc, cette industrie de la dopamine, elle peut être intéressante pour nous parce que ça veut dire plein de choses. En fait, ça peut vouloir dire, est-ce que les Disney, etc., ont un avenir dans cette industrie-là? Est-ce qu'il faut pas aller plutôt voir des Meta, des Apple, etc.? On parlait du Vision Pro à l'instant. Donc, plein de questions. Et l'autre question, c'est la santé mentale. On se rappelle qu'au 19e, avant le 19e, se laver les mains, c'était vu un peu comme quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on est à peu près à ce niveau-là aujourd'hui en se disant que l'industrie de la dopamine peut avoir un impact extrêmement fort si, du coup, on ne fait rien? Ça aussi, c'est une piste à savoir. Est-ce que les boîtes qui vont essayer de régler tous ces sujets de santé mentale pourront du coup être intéressants pour les investisseurs? Plein de questions ouvertes, on ne sait pas trop aujourd'hui, mais ça reste un sujet extrêmement intéressant et extrêmement important.
L'impact sur notre santé et santé mentale et sur nos investissements de cette mutation de l'économie du divertissement en économie de l'excitation, on va dire,
c'est ça,
la dopamine. Merci beaucoup Johan pour cette revue de presse. On va continuer à parler de ces sujets et d'autres. On va parler notamment des ETF Bitcoin avec notre équipe de débatteurs d'ici quelques minutes. Mais avant ça, on passe une tête chez nos traders.
Tout pour investir, le match des traders.
Ce matin, nous avons d'une part Mathieu Cerrone de Galileo Trading et Andrea Tueni de l'équipe Saxo Bank. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
On est en train de parler avec Antoine de notre CAC qui est en belle progression ce matin, qui surperforme l'Europe boursière. Andrea, vous nous dites, est-ce que, attention, on ne serait pas dans un faux rebond? Expliquez-nous.
Bah, la question aujourd'hui, c'est qu'il y a deux thématiques qui dominent sur les marchés. Il y a d'un côté les résultats d'entreprises qui vont prendre de l'épaisseur petit à petit. Ça a commencé, mais ça va continuer, ça va s'accélérer. On va avoir notamment Netflix qui va publier après la clôture aux États-Unis. Donc on va avoir quand même une grosse importance pour surveiller justement ces résultats, voir l'impact que ça va avoir. S'il y a des déceptions, sachant encore une fois la valorisation de certaines valeurs, notamment de la tech, ça peut avoir des conséquences assez fortes sur les marchés. D'un autre côté, le marché est en train de repricer les politiques monétaires des banques centrales. On a aujourd'hui plus que une première baisse de taux qui est pricée en novembre du côté de la Fed. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé l'année avec 6 à 7 baisses de taux pricées par le marché. Donc là, du coup, la correction qu'on a vue sur les dernières séances, la baisse qu'on a observée notamment sur les marchés américains, bon, elle se légitime, elle se justifie par ces éléments-là, par le repricing qui est en train de s'opérer. Mais du coup, si on rentre dans une saison de résultats qui peut être compliquée avec des entreprises qui déçoivent, qui publient en dessous du consensus, là, pour le coup, on va avoir ces deux facteurs, ces deux catalyseurs qui vont s'ajouter et qui peuvent ajouter une pression baissière sur le marché. Alors, il n'y a pas forcément encore aujourd'hui la théorie du faux rebond. Il faut juste, en tout cas, être beaucoup plus méfiant parce qu'on est sur des niveaux qui sont des niveaux qui peuvent être un petit peu compliqués. 7875, 7812, c'est des niveaux de support. Derrière, sinon, c'est un retour sur un ancien gap, hein, sur le CAC entre 7475 et 7550. Donc, il y a quand même un écart qui est assez important qui peut se créer si jamais on venait à casser des niveaux de support comme 7875 et 7812. Par contre, on a toujours une capacité de rebond sur ce marché. Si on reste au-dessus, on peut rebondir. On peut revenir sur des niveaux de résistance tels que 8120. Donc voilà, il faut observer un petit peu à la fois la saison de résultats d'entreprise et voir si du côté des marchés américains, on continue de repricer cette politique monétaire des banques centrales de manière un peu forte.
Merci Andrea. Méfiance aussi de votre côté, Mathieu Cerron ?
Oui, bien sûr. Et on est passé d'une période d'optimisme, pour ne pas dire d'euphorie, qui aura duré 5 mois environ de fin octobre à fin mars, à une période de doute avec, comme le disait Andrea, la perspective de baisse des taux qui s'est éloignée aux États-Unis, à maintenant une petite phase d'inquiétude. Alors l'inquiétude, on la voit pas tellement sur les indices, sur les prix, sur les marchés actions, mais on le voit au niveau de la volatilité. La volatilité implicite a pas mal augmenté ces derniers temps. Vous voyez, moi, je vous répétais ces dernières semaines que la volatilité était très basse, qu'il fallait en profiter pour prendre des initiatives à base d'achats d'options. Ben là, la volatilité maintenant, elle est beaucoup plus haute. On a les taux aussi, les taux souverains américains qui sont sur des plus hauts de fin d'année dernière. Donc, on sent des petites tensions par-ci, par-là. Et je parle même pas de la géopolitique, bien évidemment. Donc, on a des marchés qui alternent des phases d'espoir, de doute à une vitesse assez folle. Parfois, on a deux séances en une. Ça a été le cas en début de semaine, mardi, même hier, la situation était un petit peu particulière. À chaque fois, notamment au sein du CAC, on a des valeurs qui surperforment. Hier, c'était LVMH, la plus grosse pondération du CAC, qui a dopé l'indice français. Aujourd'hui, c'est Schneider, qui est la troisième plus grosse pondération du CAC. Schneider pèse 7%. Elle prend environ 3%. Donc, elle explique à elle seule la moitié de la hausse du CAC aujourd'hui. Donc, comment aborder ces marchés-là? Eh bien, moi, je joue une zone de neutralisation à moyen terme. On évoquait ces derniers temps un objectif d'un repli modéré qui se situerait vers les 7850-7900 points sur le CAC. Cet objectif-là, il a été atteint. On s'est arrêté juste au-dessus des 7900 points hier avant-hier. Donc cet objectif-là, il est atteint. Donc on va dire que en atteignant ce niveau-là, on arrive au bout de quelque chose. C'est-à-dire que si on se maintient au-dessus de ce niveau-là, le pari que je fais moi pour l'instant, si on se maintient au-dessus de ce niveau-là, eh bien on reste dans une logique de retracement, dans une tendance de fond. Là, je parle d'une tendance moyen-long terme qui reste haussière. En revanche, si on commence à s'installer en dessous, là, on aurait un warning à moyen terme. Donc, on a un warning à court terme qui est allumé depuis quelques temps, et j'en parlais à votre antenne, depuis la rupture des 8120 sur le CAC, un petit warning s'est allumé. Bon, depuis, on va dire qu'il s'est un petit peu éteint, puisque on latéralise plus qu'autre chose, mais attention justement à cette zone des 7850-7900, il ne faudrait pas l'enfoncer. Donc, pour prendre des initiatives à très court terme, ben moi, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de facilité, on va dire, d'un point de vue psychologique, à travailler la vente plutôt qu'à l'achat, mais on peut quand même travailler les deux sens. Ce matin, moi, j'ai vendu un petit peu dans la zone des 8025-35, je suis prêt à compléter en double top avec hier, donc sur les plus hauts d'hier, dans la zone des 8055-60, et sur retracement, bah, objectif 8000, 7970-75, jusqu'à éventuellement 7920. Voilà un petit peu la stratégie de fond.
Merci beaucoup, messieurs, pour la lecture de la séance du jour, les niveaux techniques à surveiller, ce que vous allez faire, d'avoir partagé ça avec nos auditeurs et nos auditrices. Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading d'une part, et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank de l'autre. À la semaine prochaine, messieurs. Pour l'heure, on continue de débattre des actualités qui vous concernent en tant qu'investisseurs et investisseuses.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Non, Géraldine Métifeux, rien sur le PSG. La pub est alimentée par des discussions internes sur le foot. C'est très difficile de tenir une émission de finance avec vous. Bonjour Géraldine Métifeux.
Bonjour Laurent.
Associée gérante d'Alter Egal et fan du PSG. Johan Lopez, fondateur de Snowball, qui est toujours avec nous.
Et fan de l'OM.
C'est
pas grave.
Et Jonathan Anglove, fondateur d'Agesso Capital et d'Aircall. Bonjour Jonathan.
Salut Laurent.
Jonathan sera notre coach tout à l'heure. Mais avant ça, nous devons débattre, non pas de la Ligue des Champions, mais des ETF. Bitcoin. Car oui, nous pouvons être investis en ETF Bitcoin sans être américain vivant aux États-Unis, sans être hongkongais vivant à Hong Kong. Donnez-nous la recette, Géraldine.
Alors, c'est pas moi qui vous la délivre, c'est la SFC, l'équivalent de la SEC à Hong Kong, qui a décidé, alors c'est plutôt dans les pré-agréments, mais de mettre en place des ETF crypto, alors pas que sur le Bitcoin, mais également sur l'Ether, ce qui fait déjà une différence avec son homologue américain. Et là où c'est en plus interdit sur la Chine continentale, donc ça relance l'intérêt pour l'Asie. Et la particularité, je pense, c'est sans doute le fait qu'on puisse l'acheter en nature. Donc vous pouvez arriver avec vos Bitcoins ou vos Ether et acheter... Exactement. Et sortir tout ça en ETF et après ressortir en autre ETF ou à nouveau en nature. Donc c'était assez rigolo. Alors moi qui ne suis pas ni très ETF ni crypto, vous noterez que j'ai essayé de trouver une actu un peu différente de d'habitude. Hein.
Justement, qu'est-ce que la conseillère en gestion de fortune, de patrimoine, pose comme regard sur ces objets ?
Alors, nous, pour l'instant, on est encore un peu sur la catégorie OVNI, mais parce qu'il y a un côté extrêmement spéculatif, c'est-à-dire que notre métier, c'est pas le casino ou c'est pas le trading intraday, c'est une construction sur le long terme. Donc, conseiller aux clients d'investir sur les cryptos, c'est pas proprement un conseil, c'est-à-dire que on considère que si ça va monter, on peut y aller, mais vous voyez, il y a quand même des gros mouvements sur les marchés. Moi, je me souviens que sur ce plateau, un jeune Amaury, dont je tairai le nom de famille pour des raisons évidentes, m'expliquait qu'à coup sûr, on serait sur les 100 000 euros. Bon,
les attendus. Il y a quelques paris avec des gens de la rédaction, ça va être tout double, je pense.
Ouais, double, j'imagine.
J'ai le même pari dans mon agenda.
C'est vrai?
Ouais, tu m'as non, mais moi je suis partisan de ça ne va pas atteindre 100 000 euros.
C'est 100 000 dollars, pour être précis.
100 000 dollars.
Voilà, la parité, et on n'est pas non plus avec le yen, donc on est proche quand même, pardon. Mais le regard qu'on porte, c'est que. On va s'y intéresser de plus en plus. Il y a une réglementation qui arrive en France, on n'en parle pas beaucoup, mais qui vient aussi par l'Europe, et notamment qui va concerner les conseillers en gestion de patrimoine pour qu'on puisse beaucoup plus conseiller ce type d'actifs, parce que dans la jeune population que Johan connaît mieux que moi, il y a quand même une véritable demande. Donc on va s'y intéresser un peu plus, je vais d'ailleurs moi-même me former un peu plus à la crypto, et le fait qu'on ait de plus en plus de possibilités d'avoir une liquidité sur les marchés avec des ETF, sans passer par des choses un peu particulières, d'avoir des comptes trop à l'étranger, etc. Je pense que ça va faciliter l'accès aux cryptos. Alors après, est-ce que ce sera un boom pour que ça monte, ou est-ce que, au contraire, ça donnera l'occasion à quelques baleines de se démunir de leurs cryptos, dont ils ne savent plus que faire. On verra en fait quel sens ça donnera. Mais ça a forcément un attrait, un intérêt. Alors je ne sais pas encore lequel précisément, mais c'est compliqué de rester à l'écart des cryptos aujourd'hui, comme c'est compliqué de rester à l'écart de l'IA, comme c'est compliqué de rester à l'écart de l'ESG, même peu importe ce qu'on en pense.
Johan, vous faites non de la tête.
Non, je faisais oui, non, j'étais assez curieux de savoir où.
Non, oui, non. Non, il est curieux.
Non, curieux de savoir où est-ce qu'on peut acheter ces produits, enfin, où est-ce qu'on pourra acheter ces produits.
Sur la bourse de Hong Kong.
En crypto directement.
Yep.
Ah ouais.
Tu viens avec tes cryptos et tu prends tes ETF, c'est
vrai? Ok, intéressant.
Ouais. Il faut aller en
Alors, t'as China, alors attends, parce que du coup, t'as China Asset Management, Harvest Global Investments et Bosera Asset Management qui sont les premiers candidats.
Ok.
Donc, voilà. Ouais.
Non, mais moi, les cryptos, oui, non, mais si, enfin, je suis pas assez. Oula. Enfin, je suis pas très d'accord avec c'est ce que tu dis. D'accord.
Est-ce que tu peux ne pas être d'accord en gardant l'axe dans le micro, pour que tout le monde puisse t'écouter?
Non, ce que je disais, c'est que je pense que oui, c'est une catégorie d'actifs qu'on peut pas, en effet, négliger et qu'il faut justement s'y mettre, selon moi. En tout cas, si on est convaincu par les fondamentaux de Bitcoin, Ether, etc., c'est comme tout, hein, comme quand on investit dans une entreprise. Donc si on est convaincu, je pense que il faut y aller. Si on n'est pas convaincu, il faut pas y aller.
En tout cas, on s'occupera de vous décrypter le halving qui devrait avoir lieu demain avec Amaury Tonquédec et notre team d'experts. Tous les 4 ans, vous savez, la production de Bitcoin est divisée par 2. Normalement, c'est programmé quelque part, effectivement, entre demain, samedi. On ne sait pas trop, mais c'est imminent. Le Bitcoin a déjà battu des records depuis le début de l'année. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Amaury et notre team d'experts viendront décrypter cela demain dans Tout pour investir. D'ici là, nous avons une grande discussion à avoir sur la nature. Faut-il subventionner la nature? C'est la question que Yoann nous pose ce matin.
Ouais, mais en fait, je pense que c'est la question qu'on se pose depuis des décennies. C'est comment mettre le prix en fait sur quelque chose qui n'a pas de prix, l'air, la terre, etc. Donc en gros, c'est est-ce que cette nature nous a subventionné pendant des années gratuitement et aujourd'hui, ben on voit que on atteint certaines limites, certains niveaux. Donc est-ce que il serait pas temps justement à notre tour de la subventionner?
Pas.
Vas-y.
Non, mais en fait, c'est un bien public, c'est-à-dire que juridiquement parlant, l'air, l'eau, tout ça, enfin, l'eau, ça dépend, parce que dans les infrastructures, on va la retrouver, mais ça reste un bien public. Et sur la partie subvention, à dire vrai, j'ai envie de dire que toute la partie énergie renouvelable ressemble quand même à une économie très subventionnée déjà. Donc après, je sais pas si est-ce qu'on doit aller plus loin. Et comment tu mets un prix sur quelque chose qui appartient à tout le monde?
Non, mais en fait, moi ce que je vois, et je pense beaucoup à la construction, hein, quand on parle d'un petit peu subventionné.
Et
tout ne passe pas par, tout ne passe pas par les subventions. Je pense que, en fait, les professionnels, quels qu'ils soient, notamment dans l'immobilier, quand on construit, et donc il y a une nouvelle loi là, qui est sortie, c'est la loi ZAN, zéro artificialisation nette, j'ai toujours du mal à dire ce mot, qui est assez intéressante, qui dit en fait, si vous voulez construire, donc bétonner un endroit, il faut que vous créiez ailleurs
une compensation pour les crédits carbone.
Et je trouve ça bien. Et donc là, finalement, quel est le problème? Et c'est la même chose, par exemple, pour le commercial et l'habitation, ce qui a été fait.
Je pense qu'Anne Hidalgo est au courant de cette information.
Le PLU bioclimatique. Hein. Le PLU bioclimatique, maintenant, interdit complètement la suppression d'espaces verts. Et donc, je pense que c'est très important. Alors, on parle beaucoup tout le temps en France, on adore parler de subventions. Et moi, je ne suis pas toujours très subventionné. Je préfère dire en fait, il y a des acteurs économiques. Il faut essayer de que eux fassent des transitions. Dire, on veut construire, je dis n'importe quoi, 50 000 mètres carrés sur un terrain qui était historiquement agricole ou peu importe ce qu'il était. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer finalement ce verre qu'on est en train de voler à la ville, à la nature? Par enlever peut-être du béton ailleurs. Et on le voit, hein, moi je le vois tous les jours, il y a partout des ZAC complètement abandonnés, des ZAC zones commerciales, et des ZEDI zones industrielles, pareil, qui sont à l'abandon, qui ont été faites dans les années 60-70, et qu'on laisse mourir. Et je pense que ça serait bien de dire aux promoteurs, de dire, très bien, on vous donne ce permis de construire pour ça, mais donc qu'est-ce que ça veut dire pour tel ZAC? Est-ce que vous pouvez pas un petit peu réduire votre empreinte et donc peut-être détruire la ZAC et lui rendre la nature?
Mais là, du coup, on n'est pas sur du bien public, quoi. Enfin, donc en fait, par rapport à la nature qui a un sens large, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que moi, je suis pas hyper écolo. En vrai, ça pour le coup, ça fait sens. C'est-à-dire qu'on rétablit un peu les équilibres sur la subvention de la nature à proprement parler. Je vois pas la mécanique. Je vois bien l'intérêt économique. Enfin, comment dire, je vois bien l'idée générale qui est derrière. Je vois pas la mécanique juridique qui nous amènerait à faire ça.
Par exemple, si on prend un exemple qui existe aux États-Unis, c'était le Forest Resilience Bond. En gros, c'était des investisseurs particuliers finançaient la restauration de forêts pour éviter les feux de forêt, etc. Et ces investisseurs étaient remboursés par les institutions publiques qui bénéficiaient.
Bah là, on subventionne les investisseurs, en fait.
En soi, c'est la nature qui en bénéficie in fine.
Les impôts publics qui financent.
Voilà.
Ça va être un peu, compliqué, mais ceci étant, en France, t'as les groupements fonciers agricoles ou viticoles. Viticole, ça marche moins bien. Enfin, c'est pas mal. Mais c'est pas mal, on est payé en bouteille, c'est pas con.
Vous nous parlerez de ça la prochaine fois?
Avec plaisir, je vais même le noter.
Faites vos devoirs. Merci beaucoup à tous les trois, Géraldine Métifeux d'Alter Egal, Yoann Lopez de Snowball, dont on peut retrouver la plume sur la newsletter Snowball. Et puis Jonathan Anglove, qui sera notre coach tout à l'heure. Jonathan, on va réfléchir sur un tout autre sujet. Faut-il investir dans les petits espaces? On va parler de caves, on va parler de box.
Stockage.
Et de stockage. Mais oui, mais si vous voulez mettre du vin quelque part, c'est pas mal. Et ensuite, comme vous n'avez plus le droit d'avoir une voiture, si vous collectionnez des voitures, il faut bien les ranger quelque part. Et vu que vos appartements, de toute façon, réduisent, il faut bien ranger le désordre.
Et on déménage de plus en plus.
Voilà. On fera ce sujet très sérieusement d'ici un gros quart d'heure. Vous êtes avec nous, vous réagissez à cette antenne. Je suis branchée sur LinkedIn. Vous nous écrivez en message privé ou à l'adresse directe @bfmbusiness.fr. Nous marquons une petite pub et après ça, c'est Nicolas Dose qui arrive avec son vitriol. Enfin, en tout cas, celui de la Cour des comptes. On va parler de critique. À tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Notre Notre dealer d'informations économiques arrive ce matin avec sa dose de vitriol. Pas la vôtre, Nicolas, celle de la Cour des comptes. Le Haut Conseil des finances publiques, rattaché à la Cour des comptes, a des mots très très durs à l'endroit de Bercy et d'Emmanuel Macron. Que dit-il ?
Alors il dit, si je le dis avec mes mots cette fois-ci, il dit « rien ne va ». Hier, il a rendu un avis sur ce qu'on appelle le PSTAB dans le jargon, le programme de stabilité 2027 que la France a fourni à Bruxelles, c'est-à-dire sa feuille de route macro-éco, preuve de croissance, de dette, de déficit, comment ça va se passer. Et donc là, les mots, évidemment, sont très feutrés et polis. Mmh. Hein, on est sur un document de magistrat quand on parle de la Cour des comptes, mais j'ai jamais vu des mots aussi durs. Et effectivement, c'est du vitriol. Alors, sur la croissance, le mot qui va à côté est à peu près classique, surévalué. C'est un mot, enfin, les mots ont leur sens. C'est surévalué. Après, vous avez sur les comptes publics manquent de sincérité. C'est un sens juridique, hein, le mot sincérité, quand on parle justement des comptes publics. Ensuite arrivent les économies qui sont prévues. Elles sont mal définies et elles sont à ce stade lacunaires. Jamais vu encore des mots comme ça. Et enfin, la trajectoire de retour sous les 3% de déficit public en 2027 manque de cohérence. Manque de sincérité. Manque de cohérence, mal renseigné et lacunaire, c'est lourd tout de même. Et pour paraphraser, les experts de la finance à Bercy, dans ce genre de situation, diraient que la trajectoire de nos finances publiques et de notre macroéconomie, c'est un oiseau qui ne vole pas. Et le mot important, c'est le mot manque de sincérité, insincérité. C'est un mot juridique. Et si on le sort du domaine juridique, ça veut dire mentir.
Oui.
Ça veut dire tromper délibérément. C'est lourd quand même.
Est-ce que vous savez comment ce Haut Conseil des finances publiques, rattaché à la Cour des comptes, justifie d'être aussi critique, d'être aussi sévère au sens juridique et puis au sens où on l'entend plus communément ?
Il y a deux éléments. Le premier, c'est le chiffre inatteignable. Vous voulez être en dessous de 3% de déficit public ? Bon, d'abord, il va falloir renseigner vos économies et qu'elles sortent du côté lacunaire. Et puis, il en faut 65 milliards d'aujourd'hui à 2027. 65 milliards d'euros d'économies, on n'a jamais fait ça. D'ailleurs, on ne le fera pas. On n'y arrivera pas. Parce que c'est toujours le dernier kilomètre qui est compliqué. J'annonce 10 milliards en urgence en allant tailler des crédits de réserve qui seront une poire pour la soif en cas de coup dur. Enfin, on n'a pas des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de crédits de réserve que l'on peut s'amuser. Donc plus on va annoncer des économies, sans doute 20 supplémentaires en plus des 20 cette année en 2025, ouais, plus les économies seront compliquées, plus elles feront mal. Plus on en ressentira les effets. Parce qu'on ne va pas être que sur du crédit de réserve qu'on va pouvoir geler. Et deuxième élément, ben, elle justifie ça parce qu'elle considère qu'il y a des paris du pouvoir qui sont intenables. C'est quoi les paris du pouvoir ? Il y a de l'épargne, les Français vont prendre dans la épargne pour consommer. Rien depuis 4 ans. Hein. On a créé des emplois, a priori, bon, on va quand même réussir à avoir un niveau d'emploi qui va se tenir. Pas du tout évident, ça. On a perdu des gains de productivité depuis 2019, mais ils vont revenir. Je ne les vois pas venir, moi. Et puis, le commerce mondial, il va résister. Et ben, quand vous faites 4 paris comme ça pour justifier vos espérances de croissance et de dynamique économique, vous faites des paris un peu audacieux. Voilà ce que dit, en gros, pour parler comme les jeunes, le Haut Conseil des finances publiques.
Voilà, si Nicolas nous parle aussi comme les jeunes, rien ne va plus.
En vrai.
Que en vrai, ça. Que préconise ce Haut Conseil des finances publiques pour rendre cette feuille de route de l'exécutif plus crédible, parce que la critique est facile, mais maintenant, est-ce qu'ils ont des solutions ?
Oui, ils ont deux solutions. Un, vous tenez pas parole et vous abandonnez les 3% de déficit public pour 2027. Ou alors, vous tenez parole. Mais dans ces cas-là, vous allez renseigner les 65 milliards d'euros d'économie et vous allez indiquer, parce que 65 milliards d'euros d'économie en quoi ? 25, 26, 27 ? 3 ans. C'est récessif. Hein. À ce niveau-là, avec des montants pareils, autant la dépense publique n'est pas un moteur de croissance et d'activité, mais enfin, quand on entaille 65 milliards, c'est récessif. Donc, vous en renseignez les milliards et vous renseignez les effets de décélération que ça aura sur l'activité, donc vous révisez sensiblement à la baisse, prévoyant une croissance. Première recommandation. Deuxième recommandation, vous arrêtez immédiatement toute promesse de baisse d'impôts. Donc ça veut dire qu'en 2025, vous ne faites pas les 2 milliards promis aux classes moyennes, et vous ne faites pas la poursuite de la suppression de la CVAE dans les impôts de production promis aux entreprises. Voilà ce que dit la Cour des comptes. Après, il y aura un débat, mais sans vote, à l'Assemblée nationale sur ce programme de stabilité, ce PSTAB, qui se tiendra le 29 avril. C'est bien, ça me fait du gras à moudre pour Gabriel Attal sur BFM TV ce soir.
Rendez-vous donc ce soir, vous l'avez entendu sur BFM TV.
20h50.
Merci beaucoup Nicolas, que vous pouvez retrouver en podcast et en replay et sur YouTube d'ici 20h50 sur BFM TV ce soir. Cette chronique est à retrouver, vous l'avez entendu, sur YouTube, où vous pouvez aussi participer à la discussion, à la surévaluation, à la sincérité, à la définition, à la cohérence de cette chronique. Merci Nicolas. À suivre, le sentiment de marché de Franklin Pichard.
Tout pour investir en portefeuille.
Dans votre portefeuille, Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Vous allez bien ?
Bonjour.
Est-ce que vous êtes de bonne humeur, comme les investisseurs financiers ?
Oui.
L'humeur est plutôt changeante, pas très stable cette humeur. Racontez-nous.
Oui, mais quand vous voyez les marchés dévisser de 1,40, une séance reprendre 1,40 le lendemain, bon, finalement se tasser, finir en hausse de 0,60. On voit à côté de ça le VIX, l'indice de volatilité qui explose littéralement. Les investisseurs ne savent pas trop sur quel pied danser et du coup préfèrent acheter de la volatilité et vendre de la volatilité pour couvrir un petit peu leur position. On voit des dégagements. On a eu la publication d'LVMH hier, mais le titre avait baissé de 13% au cours des 4 dernières semaines. Et les anticipations du marché étaient dures sur LVMH et elles ont été saluées hier. On en avait parlé il y a une quinzaine de jours en l'évoquant et c'est l'occasion de revenir sur la valeur, sur le secteur, très fortement pondéré dans l'indice CAC 40. Et par conséquent, ceux qui avaient vendu sur des plus hauts peuvent, sur les niveaux de 800 et quelques, revenir sur le titre. Les analystes ne s'y trompent pas. 28 d'entre eux sont toujours à l'achat ou à conserver sur le titre. Un moyen de jouer la valeur. Ceux qui ont du Hermès, qui publiera la semaine prochaine, peuvent être confiants. Si LVMH a réussi cette prouesse, Hermès la fera également, vraisemblablement. Donc, et idem pour le secteur en général, Richemont et compagnie. Donc voilà un petit peu ce qui met un peu de baume au cœur aux investisseurs. Après, les résultats des banques américaines, et puis je vous écoutais tout à l'heure avec les publications de Danone, d'Edenred, on a un élan. Voilà, on se sent un petit peu plus serein, comme chaque saison des publications depuis maintenant 2 ans, où tout le monde se dit, ça y est, on va se prendre les pieds dans le tapis. Eh bien, il semblerait qu'une fois de plus, on ne se prenne pas les pieds dans le tapis.
Il semble que le pire soit évité. Plutôt un bon départ. Vous nous avez parlé des banques. Des banques américaines, si on élargit à l'économie américaine. Un petit peu insolente, cette économie.
Oui, c'est ça. C'est le problème. C'est qu'on a une inflation persistante. Donc, les investisseurs, les opérateurs sont en train d'intégrer le fait que, est-ce qu'on aura une hausse voire même au mois de novembre. Est-ce qu'on en aura une en 2024? C'est véritablement la question. Et en tout cas, par rapport à l'économie américaine, par rapport à l'anticipation qu'ont les investisseurs, il y a beaucoup de questions et d'incertitudes et d'hésitations sur le T2, T3. Mais avec un optimisme débridé, j'ai presque envie de dire, pour la fin de l'année, où on aura quand même des mouvements vraisemblablement. Et si on n'a pas de mouvement de baisse des taux, on aura une anticipation pour 2025. Donc les investisseurs sont en train de faire le grand écart. On est au mois d'avril, mais font le grand écart, se disent que peut-être qu'on aura un deuxième et troisième trimestre à plat, avec quelques consolidations, pas des choses formidables à attendre, mais qu'il faut rester positionné pour la fin de l'année et pour 2025. Et cette économie américaine, vous en parliez à l'instant, il se trouve que j'étais avec des investisseurs et des gérants suisses hier, et ceux-ci me disaient, en ce qui concernait les investisseurs, ils me disaient, moi, mes gérants me font basculer entre 70 et 80% de mon portefeuille sur les valeurs américaines.
Là, vous nous dites, il faut continuer à se renforcer en Amérique dans les portefeuilles.
Oui, typiquement, on voit, par exemple, à travers ce que dit Nicolas, on risque, si on doit faire des économies fiscales, il y aura des effets qui seront un peu négatifs sur l'économie.
Vous pensez à quoi ?
On aidera moins les entreprises, on aidera moins la compétitivité, et par conséquent, on va être avec une économie qui fonctionnera peut-être un petit peu moins bien et qui aura du mal à maintenir une croissance. Et en tout cas, quand on regarde la croissance européenne par rapport à la croissance américaine, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Et dans cet environnement-là, donc, les investisseurs continuent de dire, comme c'est depuis toujours, depuis la nuit des temps, il vaut mieux être en période un petit peu compliquée, incertaine, être du côté des valeurs et des marchés sur lesquels on a une visibilité affirmée, plutôt que sur une zone où, oui, on baissera les taux en juin, Christine Lagarde l'a dit, mais cette bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle. Ça veut donc bien dire qu'on a une économie qui ralentit et que maintenant, il faut baisser les taux pour essayer de la soutenir et de la relancer. Les États-Unis, seraient dans une logique où même ils devraient monter les taux et non pas les baisser. Peut-être qu'ils ne les baisseront pas ou qu'ils les baisseront peu en 2024, mais on a des indicateurs économiques, une consommation des ménages, on l'a vu en début de semaine, qui montre que véritablement, on a quelque chose de très tonique de ce côté-là de l'Atlantique et qu'il faut, nous, pas forcément passer à côté et ne pas négliger cette poche américaine.
Si on finit sur des valeurs, cher Franklin, vous nous dites, voilà, avec la croissance soutenue, les États-Unis, c'est la zone qu'il faut renforcer en portefeuille. Vous pensez à des valeurs en particulier que vous...
Oui, alors, on aime bien et jouer plusieurs secteurs. Vous avez Micron Technologies, en plus ce matin, hier plus exactement, qui a annoncé qu'ils allaient bénéficier d'une aide du gouvernement américain, 6 milliards de dollars, pour construire des usines de puces, pour pouvoir faire des puces américaines et être moins dépendant du marché chinois.
Une loi qui leur permet d'aller fabriquer plus facilement des semi-conducteurs sur leur territoire.
Exactement, avec une aide de 6 milliards. Donc Micron est un titre qui nous intéresse beaucoup, qui a connu une progression, une petite correction. Hier, il rebondissait, c'est une bonne idée. Le pétrole américain, on n'en parle pas suffisamment, mais ils sont très très compétitifs. Ils ont une production supérieure à certains pays du Golfe. On peut acheter Occidental Petroleum. C'est un titre que nous regardons et que nous achetons. Apple, qui retouche et plus bas, qui a du mal à rebondir, mais qui, sur du moyen terme, est en train de signer des accords avec Google pour rattraper son retard dans l'IA. Ça peut être quelque chose à voir. Et puis, on a eu la publication d'hier de United Airlines. Nous, on regarde plutôt Delta Airlines, qui n'a quasiment rien fait sur quelques années. On considère, grâce à au taux de remplissage des avions, et puis surtout aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, cette capacité des transporteurs à faire passer des hausses de prix et de continuer de remplir leurs avions. Et puis un titre que tout le monde connaît, mais que le fil rouge d'un portefeuille en tech, c'est Amazon.
Ouais.
Là, je ne vois pas un analyste qui soit négatif sur Amazon. Donc ceux qui veulent mettre un doigt sur une valeur américaine, qui n'en ont pas forcément assez ou tous, et en tout cas pas celle-là, je pense qu'il faut avoir Amazon.
Amazon, Delta Airlines, Apple, Occidental Petroleum pour jouer le pétrole américain et puis Micron, vous nous disiez en début de séquence. Pour conclure, un mot d'ASML parce que AMH, sans surprise, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais de l'autre côté du spectre, on en a pas mal parlé hier, ASML, est-ce que justement la baisse du titre offre un point d'entrée ?
Écoutez, oui, selon nous, en plus, c'est étonnant, parce que LVMH, tout le monde s'attendait à un titre décevant et le titre rebondit. ASML avait certes moins corrigé avant, et ASML aujourd'hui a bien corrigé. Et du coup, les investisseurs et les analystes ont des objectifs au-dessus de 1000 euros pour ASML, qui vaut autour de 850 euros.
Ouais.
On a donc un potentiel d'appréciation de 15 à 17% sur le titre pour atteindre ses objectifs. Et on sait pourquoi, et c'était anticipé, pourquoi ces chiffres ne seraient pas bons. Les carnets de commandes seraient mitigés, mais le rebond se fera sentir à partir du deuxième semestre 2024. Par conséquent, ce point d'entrée, ce trou d'air, peut être mis à profit pour rentrer sur la valeur.
Voilà, ASML qui se négocie, vous l'avez dit, autour de 858 euros. Peut-être un point d'entrée. Merci Franklin pour ce regard sur l'humeur des investisseurs financiers et peut-être les quelques actions que vous pouvez prendre en bourse pour jouer justement cette humeur fluctuante. Merci Franklin Pichard et l'équipe de Kipling Finance avec nous dans Tout pour Investir. Cette séquence, si vous l'avez attrapée en cours de route, est à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application BFM Business. Et puis je vous précise que l'actualité de la bourse et l'ouverture de Wall Street, c'est l'après-midi en direct sur BFM Business, BFM Bourse, l'équipe de Guillaume Sommerer, Stéphane Pedrazzi et Julie Cohen à partir de 15h30 pour suivre l'actualité boursière en direct. À suivre, nous allons parler de stockage, de box. Nous allons réfléchir à est-ce que ces caves, ces espaces de stockage représentent une opportunité d'investissement. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
15%. 15% de rentabilité, c'est peut-être ce qu'on vous promet dans cette séquence. Bonjour Jonathan Anglove.
J'adore promettre des investissements. Bonjour Lorraine.
Attention, tout investissement comporte du risque, y compris quand on met des billes dans une cave, un box ou un espace de stockage. C'est l'objet de cette séquence. On va réfléchir si c'est le bon moment d'investir dans ce genre d'espace limité, généralement obscur. En France, Jonathan, vous êtes à la tête d'Aguesso Capital et d'Aircall. Vous allez nous expliquer ce que vous pensez de ces opportunités d'investissement.
Écoutez, oui, c'est assez intéressant parce qu'on a, un petit peu oublié durant pas mal d'années les caves, enfin le stockage en général. On a beaucoup pensé au parking, hein, on le montre juste là. On a aussi également beaucoup pensé aux caves classiques. Mais on oublie qu'aujourd'hui, de plus en plus, les personnes, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plus petites villes, déménagent souvent, ont des plus petits appartements. Historiquement, les appartements qu'on construisait en 1930 étaient bien plus grands que les appartements qu'on construit aujourd'hui. Pourtant, finalement, on a toujours autant de choses auxquelles on tient. Et donc, finalement, il y a un énorme regain récemment, depuis 2-3 ans, surtout après le Covid, d'avoir sa box de stockage, pas spécialement avoir une grande cave, de pas pouvoir, notamment dans les immeubles haussmanniens classiques, où les caves sont en terre et la moindre chose qu'on met risque de pourrir. Eh bien, il y a un vrai regain pour le stockage. Et c'est intéressant parce que c'est un business qui à l'origine était opéré par des vrais opérateurs du stockage, donc des personnes qui créent un business pour stocker. On peut penser à une pièce en U, une pièce en plus, à co-stockage.
On pense à ces gros espaces de stockage un peu excentrés.
Exactement. Voilà qu'on voyait. Et récemment, il y a vraiment des investisseurs immobiliers qui commencent à s'y intéresser.
Vous voulez dire que ça s'institutionnalise?
Ça s'institutionnalise, exactement. Quel mot difficile. Oui, ça s'institutionnalise, et notamment Ardian, qui est un énorme asset manager dans le monde, qui vient de racheter Co-Stockage, justement avec cette vision de dire aujourd'hui le monde a besoin de stocker, et pour stocker, quoi de mieux qu'un espace de stockage, même s'il n'est pas au pied de son immeuble, parce qu'on l'a décrit avant, c'est pas toujours, on n'a pas toujours la bonne solution au pied de son immeuble, parce que si on a un parking, on a peut-être une voiture, et si on a une cave, elle est peut-être humide, et donc on peut pas stocker ce qu'on aimerait.
Ou pour ceux qui écoutent Tout pour investir régulièrement, occupés par du vin.
Ou voilà. Par exemple. Et donc, ce qui est intéressant dans le stockage, donc il y a deux manières d'investir dans le stockage. Ça peut être acheter des box, des box de parking classiques, et au lieu de les louer à des voitures, on peut mettre du stockage. Ou alors directement de créer son propre, enfin d'acheter, on va dire par exemple, un grand plateau d'anciens parkings inoccupés, pas très loin, soit d'une grande zone d'activité ou d'une grande ville ou proche d'un endroit d'habitation, et de créer son propre lieu de co-stockage.
Et l'opérer à petite échelle.
La bonne nouvelle, c'est que vu que c'est du stockage, ça nécessite très très peu d'investissement, contrairement à la location classique immobilier où dès qu'on a un locataire, à la sortie de ce locataire, on peut avoir des problématiques de travaux, on peut avoir des problématiques d'impayés sur de la location classique, et c'est compliqué. Dans le stockage, si la personne ne paye pas, on peut très facilement
la déstocker.
Voilà, on l'a dit. On a très peu de travaux, très peu de charges, parce qu'en général, soit on est dans un immeuble et on paye un quotient de charges très faible, vu qu'en général c'est dans des sous-sols.
Ouais.
Et si c'est notre propre lieu de stockage, je prends un exemple d'un acteur qui a récemment acheté pour un peu moins de 500 000 euros, donc c'est pas une énorme somme, je ne veux pas dire de bêtises, 3000 mètres carrés de stockage en proche banlieue. Et l'a transformé en petit box. Il a investi 250 000 euros pour faire ses petits box. Donc ça fait à peu près 750 000 euros d'investissement total. Et tout ça lui rapporte aujourd'hui un peu plus de 150 000 euros par an en louant chaque box individuellement. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors il y a quelques pièges à éviter. Attention, l'emplacement est primordial. Vous pouvez imaginer que lorsqu'on stocke du matériel auquel on tient à première vue, vu qu'on est prêt à payer pour ça, la zone de chalandise maximale est vraiment de 10 km. Donc en ville, elle va être plutôt de 1,5 km. donc 10 kilomètres en province. La sécurité, ça va être primordial. Il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus qu'il faut savoir, c'est que si on crée son propre système de stockage, donc c'est vraiment ce qu'on appelle du self-stockage, ça veut dire que on fournit la partie immobilière entre guillemets, on est responsable.
Système d'accès et puis c'est tout.
Il y a des systèmes d'accès et un peu de sécurité, il faut donc prévoir des portes blindées, prévoir des caméras de surveillance, etc. pour vraiment rassurer, et c'est ce qui va aussi faire en sorte que vous allez vous démarquer de la concurrence et dire mes box sont sécurisées, je suis capable de vous offrir un produit où vous pouvez stocker des choses de valeur oui. sans vous inquiéter. Quoi.
Mais si je reprends votre exemple, Jonathan, on est vraiment dans l'investissement, on choisit d'acheter un plateau, de l'opérer. Comment on distingue les locataires en B2B et en B2C? Je veux dire, assurer des pros versus assurer des particuliers, c'est pas les mêmes enjeux de sécurité.
Alors tout dépend ce que vous allez stocker. Là, je parle vraiment de stockage traditionnel. Hein. On va éviter de stocker de l'hydrogène ou des choses comme ça. Hein. Il y a des stockers.
C'est encore un autre business.
Ouais, c'est un autre business, mais ça existe et c'est des business très rentables parce que du coup, c'est des espaces particuliers. Mais en tout cas, que ça soit pour du B2B ou du B2C, la demande est extrêmement élevé, et un B2B, si on prend l'exemple d'une boîte, par exemple les notaires sont des grands clients du stockage parce qu'ils doivent garder beaucoup de paperasse durant la vie de leur étude, et ils adorent stocker, donc c'est du papier, donc il faut que ça soit sec, il faut surtout pas qu'il y ait d'humidité, etc. Et la beauté de ce business, qui est un des rares business dans l'immobilier qui a encore cette capacité à avoir une fixation du loyer libre, donc ça veut dire que si votre stockage a des avantages que d'autres n'ont pas et que vous êtes capable d'offrir quelque chose d'unique sur votre marché.
On a un beau pricing power.
On a un beau pricing power et il y a une demande qui est vraiment très élevée actuellement. Pour la petite histoire, sur les 10 dernières années, le nombre, et je parle en volume là, a triplé, le nombre de structures de stockage a triplé. Alors je parle en centre, on ne parle pas en petit stockage individuel.
En nombre de mètres carrés, on peut estimer que ça a triplé.
Ouais, ça a presque triplé, ouais.
Une box, un petit espace de stockage urbain, on va dire, à proximité des lieux d'habitation, ça se trouve à partir de quel prix ?
La grande question. Alors,
j'imagine qu'entre Paris et les grandes villes et, je veux dire, des plus petites villes, c'est incomparable.
C'est incomparable, en effet. Et les prix, du coup, à la sortie, de location, sont également incomparables. Donc, un box, ce qu'on appelle un box, fait en général 10 mètres carrés environ, ce qui est à peu près la taille d'une place de parking en général, mais c'est à peu près 10 mètres carrés. En province, alors on va essayer de tout diviser, en province, ça peut aller de 5 000 à 10 000 euros. En banlieue proche, on va dire Île-de-France, ça va être entre 5 et 20 000 euros, selon est-ce qu'on est proche d'une grande ville, est-ce qu'il y a de la concurrence autour, etc. Et à Paris, ça peut monter très vite, autour de 30 à 40 000 euros dans l'hypercentre de Paris. Ouais. À titre d'exemple, Co-stockage a récemment, donc comme je disais,
été vendu. Par Ardian.
Récemment par Ardian. Le prix moyen des box était autour de 25 000 euros quand même.
Ouais, donc on est comparable à une place de parking dans Paris. On est sur un.
Sauf que ça se loue mieux en général qu'une place de parking et ça a moins de problèmes qu'une place de parking peut avoir.
Pardon, petit Paris, mais j'imagine qu'avec tous les travaux de rénovation énergétique qui sont prévisibles ou qui sont en tout cas nécessaires dans les prochaines années, finalement miser sur ces espaces de stockage, c'est pas mal parce qu'on va bien avoir besoin de vider des appartements pour les refaire. Il va bien falloir stocker les choses.
Et oui. Et en plus, on déménage plus que jamais actuellement en France. Hein. Je crois qu'on reste en moyenne moins de 5 ans dans son logement actuellement. C'est une statistique versus plus de 10 ans il y a une quinzaine d'années. Donc la statistique est assez intéressante et donc ça prouve que les gens ont un besoin parfois court terme de stocker, mais également parfois long terme. Et la beauté de ce business que moi j'affectionne tout particulièrement maintenant depuis quelques mois, et d'ailleurs à Gesso Capital on s'intéresse fortement à ce business et on est en train d'acheter un premier lieu, c'est que contrairement à l'ensemble des autres business dans l'immobilier, enfin l'ensemble des autres possibilités d'achat dans l'immobilier, très peu de travaux, très peu d'entretien, ça s'opère globalement assez automatiquement, un code d'accès pour entrer ou un badge, et le reste se passe tout seul. Et en plus, les personnes en général, quand ils prennent un stockage, ils y font attention parce qu'ils y mettent des choses de valeur en général, des objets de valeur, et lorsque vous le récupérez, en général, il est en aussi bon état que lorsque vous l'avez laissé, contrairement à la plupart des autres biens immobiliers.
Voilà. Alors, quelle est l'aide à la décision ultime pour savoir s'il faut rester locataire ou s'il faut investir dans ce genre d'espace de stockage, pour conclure, Jonathan ?
La rentabilité, évidemment. Il faut chercher la rentabilité quand on fait de l'immobilier, c'est super important. Il faut traiter ce business comme de l'immobilier maintenant. Comme il y a 10-15 ans, je me souviens, au début finalement de Airbnb, où beaucoup étaient dubitatifs, et notamment les banques étaient dubitatifs du fait que un jour, la location saisonnière allait s'institutionnaliser, oui, et que ça allait devenir vraiment un investissement à part entière. Et moi, je m'en souviens au début, lorsque j'achetais mes premiers appartements et que je les mettais en location saisonnière, où les banques disaient « mais ça nous va pas ». Eh bien, c'est un peu la même chose avec le self-stockage. Depuis 2-3 ans, ça s'institutionnalise. Il y a des vrais rendements à aller chercher. Et je pense qu'il faut au moins chercher du 10% sur ce genre d'investissement.
Voilà, la perspective de rendement, on a commencé avec 15, on finit sur 10. Ça reste quand même intéressant pour l'immobilier.
15%, c'est ce qu'on peut prétendre. 10%, c'est ce qu'il faut attendre.
Voilà, l'analyse de Jonathan Anglove aux manettes d'Aguesso Capital et d'Aircall avec nous sur investir dans une cave, dans une box, dans le self-storage, comme on dit en bon franglais. Est-ce que c'est une bonne idée? Cette séquence est à retrouver en podcast ou en replay sur la plateforme et le site BFM Business. N'hésitez pas à aller la visionner à nouveau si vous êtes arrivé en cours de route. Nous allons marquer une petite publicité et après, c'est la deuxième partie de Tout pour investir. On va reparler immobilier avec Marie et notre invité. On va parler ETF parce que le jeudi, on s'intéresse aux trackers. On sera avec Jérémy Tubiana de BNP Paribas AM. Le marché se tourne vers le retail, vers les clients particuliers. Et puis, on investira différemment en famille avec l'équipe de Kimpa. Comment expliquer et impliquer vos enfants dans l'investissement à impact positif? C'est le pari de la fin d'émission. A tout de suite dans Tout pour investir.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs ou des meilleures investisseuses, que vous ayez déjà un capital et que vous voulez le faire grossir, ou que vous soyez en train de le construire, ce capital. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, jusqu'à midi tous les jours. Et puis, on est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France. Au programme de la deuxième partie de l'émission, on va parler immobilier comme tous les jours vers 11h15. Marie Cœur de Roy et notre invité Pascal Pi, qui est le cofondateur du cabinet Vous Vendez, Nous Achetons. Tout est dans le nom. Nous serons donc avec ce cabinet d'achat immobilier pour prendre le pouls du secteur. Nous allons parler ETF. Le jeudi, nous dédions notre question-réponse à ces trackers. On vous aide à investir efficacement dans ces trackers et on répond à vos questions avec Jérémy Tubiana de l'équipe de BNP Paribas AM. Et puis pour finir l'émission, on investira différemment et en famille. Comment embarquer votre progéniture dans votre projet d'investissement? C'est Brune Ribadeau-Dumas qui va nous expliquer comment impliquer les enfants et les éduquer à l'investissement à impact positif. Parfois, c'est les enfants qui nous éduquent. On verra ça en fin d'émission. Au programme, il y a vous. Vous nous écrivez, vous réagissez. Les adresses, c'est direct@bfmbusiness.fr et puis en message privé sur LinkedIn pour participer à l'émission. On part du côté d'Euronext, rejoindre Antoine. Antoine, avec un CAC 40 qui est bien ancré aux 8000 points, on peut dire que la séance est vraiment positive depuis l'ouverture.
Oui, parce qu'en avant-marché, ça semblait beaucoup plus indécis. Hein, et là, on a une vraie tendance positive qui se dessine. Et encore une fois, un CAC 40 qui arrive à surperformer l'Europe boursière. Vous allez voir, plus 0,52% pour le CAC. On est à 8023 points, alors qu'on est à plus 0,46% pour l'Eurostock 50 et 0,15% de hausse seulement pour le DAX à Francfort. Alors, notre principal ingrédient, ben, encore une fois, sont les résultats d'entreprises. Cette fois, il ne s'agit pas du luxe. Il s'agit de tout un tas d'entreprises qui ont fait état de chiffres trimestriels vraiment convaincants, à l'image d'Edenred, qui est solide leader des progressions sur le CAC, plus 4,09%, on est à 46,59€. On a eu Danone aussi avec de bons chiffres. Le titre gagne 1,16% à 59,22€. Et Essilor Luxottica aussi, plus 1,2% à 203,60€. Et puis quelques belles réussites aussi sur le SBF 120. On a Forvia qui est salué. Le titre gagne 3,3% à 13,99€. Et puis dans l'optique un petit peu d'Edenred, des titres de paiement, on a aussi Pluxi qui est leader des progressions du SBF 120 à plus 4,8%. Alors à noter qu'il y a quand même des déceptions et en particulier Sartorius Stedim Biotech qui perd 14% à 213,90€. Un premier trimestre vraiment difficile pour le groupe. On a la Française des Jeux aussi qui est vendue, moins 2,7% à 35,68€, mais pas de quoi entraver la belle marche en avant de notre CAC 40 qui est en hausse de 0,54%, 8024 points. Alors à noter une sous-performance quand même marquée des titres liés à la technologie puisque l'Euronext Tech Leaders recule de 0,42% et qu'on voit justement des petits coups de faiblesse sur les technos, en particulier Capgemini qui perd 0,15%. Sur le CAC, on est à 202,10€. Autrement, la tendance, elle est positive. Elle est même positive pour l'euro-dollar qui reprend du poil de la bête. On est à 1,0683.
Antoine, c'est l'heure de votre histoire et nous allons parler de l'événement du jour.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
L'événement du jour, c'est l'entrée en bourse de Planisware, évidemment, cette IPO qui était très attendue et qui diffuse un sentiment très positif et peut-être l'impression d'un retour possible des belles introductions. Parce que ça faisait quoi, 4 ans au VH Cloud ?
Oui, ça faisait un petit peu plus de 3 ans, 3-4 ans, effectivement, depuis OVH Cloud, qu'on n'avait pas vu une opération aussi bien réussie, qui nous donne une capitalisation boursière pour Planisware d'1,1 milliard d'euros à l'issue de l'opération, parce que, autant vous dire que le titre, il flambe, là, plus 26,8%. On est à 20,29€, donc la capitalisation, mathématiquement, elle monte du côté d'1,3 à 1,4 milliard d'euros. Donc, oui, effectivement, c'était très attendu. Pourquoi ? Déjà, parce qu'on avait besoin, justement, que revienne à la bourse des grosses sociétés tech. Et là, en plus, on a une grande société qui est vraiment sectorisée sur la planification de projets au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un secteur qu'on regarde de près, qui est lié à la donnée, qui est lié véritablement au carburant des services informatiques en France. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on se retrouve face maintenant à un gros player de ce secteur qui est coté à l'Euronext Tech Leader, l'équivalent de notre Nasdaq, à Euronext. Next. Donc du coup, on commence à avoir de belles capitalisations très représentatives qui accèdent à la bourse face pourtant à un marché qui est diablement indécis. On le voit avec l'univers de taux qu'on connaît avec la prime de risque géopolitique. D'ailleurs, Planisware, ils avaient ajourné leur projet. Il y a 6 mois, ils étaient prêts à entrer en bourse et puis ils avaient décidé de reporter le projet. Donc les conditions d'investissement sont maintenant jugées beaucoup plus favorables et on n'est pas à l'abri de bonnes surprises justement et de nouveaux dossiers qui pourraient véritablement prendre le dessus sur l'actualité ces prochaines semaines. On a l'introduction en bourse, alors très très attendue, d'une partie du fonds géant de private equity CVC à la bourse d'Amsterdam. Là, c'est intéressant parce qu'il y a une boucle qui est bouclée entre des groupes qui se développent grâce au private equity, grâce aux levées de fonds, grâce à de gros acteurs comme CVC par exemple, qui décident d'aller en bourse ou qui décident de valoriser une partie de leur système de financement en bourse. On pourrait donc avoir un joli retour des IPO de très grande taille, qui était aussi très attendu par les grandes banques d'affaires, faut le dire, avec les fusions-acquisitions. Elles ont quand même besoin de travailler sur ces dossiers pour faire fonctionner leur activité banque d'affaires et de conseil. C'est ce que disait d'ailleurs le patron de Morgan Stanley. Donc, cette introduction réussie de Planisware, c'est peut-être une bonne nouvelle qui en entraînera d'autres et un petit peu pour tout le monde.
Voilà, on espère une bonne nouvelle pour porter les marchés, notamment Euronext. Je vous précise que Pierre de Montsant, le cofondateur et président de Planisware, sera au micro d'Edwige Chevrillon vers 18h15 sur notre antenne, voilà, pour décrire cette IPO rendue possible. Merci Antoine pour ce point financier, pour cette histoire financière à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes, comme l'intégralité de vos histoires. Et cher Antoine, on se retrouve demain sur fond de crypto, puisque demain, normalement, ce sera presque le halving. Vous serez peut-être aussi d'ailleurs avec nous pour en discuter, savoir comment se préparer à cet événement et répondre aux questions de nos auditeurs. À tout de suite pour parler immobilier dans Tout pour investir.
Tout pour investir, la place de l'immo.
Marie-Cœur de Roy nous a rejoint comme tous les jours pour couvrir le secteur immobilier. Bonjour chère Marie.
Bonjour Lorraine.
Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un disrupteur, Pascal Pi. Bonjour Pascal.
Disrupteur, j'aime beaucoup. Bonjour Lorraine, bonjour Marie.
Vous êtes cofondateur du cabinet Vous Vendez, Nous Achetons. Alors c'est pratique parce que tout est dans le titre avec vous. On va évidemment faire un petit état de marché comme on fait avec tous nos invités dans cette séquence, n'est-ce pas Marie? Et puis on va parler disruption, nouvelle façon d'agir pour parler en français plus correct, puisque nous évoquerons le sujet des enchères dans l'immobilier, peut-être une manière de sortir du marasme.
Ben oui, c'est un peu le sujet Pascal, c'est en fait aujourd'hui on constate quoi? On constate qu'on a certes des acheteurs qui sont un tout petit peu en train de revenir avec des assouplissements du côté du crédit immobilier, mais de l'autre côté des vendeurs qui ont quand même énormément de mal à trouver les acheteurs finançables ou à accepter de baisser leurs tarifs. C'est un peu ce que vous constatez vous?
Alors il faut qu'ils acceptent de baisser leurs prix.
Ah, j'ai trouvé un copain pour le gros vendeur.
On est d'accord Marie.
Parce que j'ai l'impression super, vous êtes deux maintenant.
Ah non, mais c'est bien.
On est deux
bien.
En France. C'est pas mal. Non, mais effectivement, il faut qu'ils acceptent de baisser leurs prix puisque le marché de l'immobilier, à ma foi, va être impitoyable pour eux. Ceux qui ne veulent pas baisser leurs prix, l'acquéreur est en force et il faut bien le comprendre et appliquer les choses. Alors nous, on a une méthode qui est les enchères dégressives. Alors c'est pas la nôtre. Hein. Je reprécise, j'utilise une plateforme qui s'appelle WinUp et cette plateforme a mis en place ces enchères dégressives qui existent déjà.
Vous allez nous expliquer quand même le concept là pour ceux qui découvriraient.
Tout à fait. Alors le concept est très simple, c'est que à la différence de l'enchère progressive où on met un prix bas et le prix augmente, on enchérit avec tous les acheteurs. Ben nous c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez un prix en fait de fixé et il baisse par palier d'un montant toutes les 30 secondes jusqu'à ce qu'il y ait un enchérisseur. Donc ça s'adresse effectivement à une autre catégorie de population d'acquéreurs, notamment ceux qui ne sont pas opportunistes. Aujourd'hui, la plupart des acquéreurs ne le sont pas. Et nous, on l'entend puisqu'on discute aussi avec ces acquéreurs hein, qui sont intéressés par ces ventes aux enchères dégressives. Il y a des biens qui peuvent effectivement visualiser en agence, par exemple, sur lesquels ils n'iraient pas visiter. Et le fait de le mettre en enchère dégressive leur permet de débloquer un peu la situation.
Mais justement, pour revenir sur ce principe des enchères dégressives, parce que moi, à chaque fois, ça me fait marrer. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand même, contrairement à une enchère normale progressive, vous partez sur un prix qui est relativement haut, j'imagine. Donc, en termes de comment dire, d'attractivité pour quelqu'un qui a justement envie de faire une bonne affaire, est-ce que finalement, on n'exclut pas tout un tas de personnes?
Alors, pour répondre à ça, déjà, on prend un prix de marché. C'est-à-dire qu'il y a toujours une évaluation qui se fait par un agent immobilier. Il y a une fourchette basse et une fourchette haute. Donc, je tiens à préciser que c'est pas un prix qui est surgonflé.
Non, mais c'est
un
la
prix qui est sur
haute.
Une fourchette haute. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les clients, effectivement, qui ne sont pas opportunistes, ne viendraient peut-être pas sur le prix fourchette haute. Dans tous les cas, le vendeur, en fait, ne vendrait pas. Le fait de faire une enchère dégressive permet à cet acheteur, déjà d'une, de faire une visite sans être jugé.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. Donc, pas de pression, puisqu'il n'y a pas de vendeur, en réalité. Hein. Ils viennent visiter le bien tranquillement. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont pouvoir, depuis chez eux, depuis leur ordinateur, faire la proposition qu'ils souhaitent faire. Donc, fatalement, ça fait pour le vendeur, c'est déjà un acheteur. On va dire qu'il a le potentiel d'avoir qu'il n'aurait pas en fait en temps ordinaire.
Mais en gros, je clique et ça s'arrête, c'est ça? En gros, le premier qui clique, il a gagné.
Tout à fait, le premier qui clique a gagné.
Il a gagné?
Il a gagné, effectivement. Il a gagné le droit de signer un compromis de vente.
D'accord, mais il ne le signe pas là en cliquant. Ce que je veux dire,
non,
c'est est-ce que le vendeur, lui, il a la possibilité de ne pas choisir celui qui a cliqué?
Alors, donc, sur la plateforme WinUp, je vais parler que de la plateforme WinUp, il y a la possibilité pour celui qui n'aurait pas cliquer en premier, de faire sa proposition.
Quand même.
Donc, évidemment, sur la plateforme, il vérifie la solvabilité, le financement des clients. Donc, c'est-à-dire que le vendeur, alors dans l'ordre des choses, doit prendre quand même celui qui a gagné. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets, d'aller sur une enchère. En revanche, si celui-ci se désiste, ce qui peut être le cas, puisqu'on est sur une invitation, on est sur une proposition d'achat, on n'est pas sur une enchère judiciaire où il y a une obligation derrière. Donc, évidemment, si celui-ci se désiste, le vendeur a la possibilité de contacter les suivants.
Quel intérêt pour le vendeur, en fait?
Alors,
Pour nos fameux vendeurs qui ne veulent pas baisser les prix, là.
Alors, l'intérêt, c'est d'avoir déjà une proposition. Je vais donner un exemple très concret, puisque j'ai été agent immobilier longtemps, et je sais que dans les agences immobilières, les vendeurs, souvent, ne veulent pas baisser leurs prix, mais attendent une proposition. Le problème, c'est que quand vous avez pris tout votre fichier client, vous n'avez plus de clients et que ben vous faites de la pub mais vous n'avez plus de réassoir de clients, eh ben vous pouvez pas amener une proposition parce que techniquement vous n'avez pas de clients. Donc l'avantage de passer par une enchère dégressive, c'est que on va donner au vendeur finalement ce qu'il attend. C'est une proposition d'achat. Elle sera certes ce qu'elle sera, mais par contre, il aura sa proposition d'achat comme il l'attend.
Et surtout, est-ce que c'est pas l'occasion de lui faire comprendre que son prix de départ était pas le bon, quoi?
Alors,
si par exemple, je veux dire, je suis vendeur et je mets mon bien et je me rends compte que il y a personne qui clique avant un certain niveau, je finirais peut-être par me rendre compte que ce que m'a dit l'agent immobilier depuis 6 mois en me disant ton prix il est trop, faut que tu le baisses. Je dis mais non. Est-ce que c'est pas aussi ça?
Alors, c'est aussi ce débat-là. Psychologiquement, derrière, ça aide le vendeur à réfléchir autrement. Ça, c'est sûr. Mais sinon, après, il peut appeler, vous vendez, nous achetons. Et donc, on leur fera une proposition.
Parce que vous, vous achetez?
Tout à fait.
À quel prix?
Bah, ça va dépendre du bien. Marie, je peux pas dire ça comme ça. Ça va être très compliqué. Mais ils peuvent nous appeler aussi.
Je reviens juste, on va revenir évidemment sur votre concept de vous vendez, nous achetons. Mais justement, sur ce système d'enchères, pardon de vous le dire comme ça.
Ah, dites-le.
On est sûr que c'est des gens sérieux. Vous voyez, parce que ce côté dégressif, il y a un petit côté gamifié, un petit côté ludique.
Oui.
Ça reste une vente en ligne avec un public qui a été capté par un système de réseau. Effectivement, voilà, on ne se balade pas sur l'Internet dans des ventes aux enchères. Je veux dire, voilà, c'est comme des gens qui ont eu le mot. Comment on est... voilà. Vous parlez de gens qui ne sont pas des opportunistes, mais sont-ils pour autant sérieux?
Des vrais acheteurs. Alors, déjà, en fait, on capte ces personnes-là, en fait, à travers les sites d'annonces comme n'importe quelle annonce classique.
Vous les sourcez au même endroit?
On les source au même endroit. Et puis, je dirais que, évidemment, ces acheteurs sont sérieux. Pour la plupart, en fait, en tout cas, nous, dans nos ventes aux enchères dégressives, on a eu quasiment que des clients qui achetaient sans prêt. Donc, pour nous, c'est... Alors, je vais répondre aussi à la question de tout à l'heure, parce qu'on n'a pas, j'ai pas eu l'occasion de finir. L'avantage pour le vendeur, c'est qu'on regroupe d'une part les visites, donc on gagne du temps là-dessus, et d'autre part, en fait, eh ben, on est sûr d'avoir une proposition d'achat. Voilà. Et donc, les clients, en général, qui viennent sur ces ventes aux enchères, ce sont des clients qui ont déjà un projet, on va dire... Bien lancé.
Et donc du cash, à vous entendre.
Tout à fait.
Il y en a pas qui ont besoin d'un crédit et donc du coup à qui vous allez potentiellement demander un accord préalable peut-être de la banque ou d'un courtier qui dit moi je valide que lui pourra aller emprunter tant.
Ah bien sûr on a aussi des clients qui font des prêts, mais je dirais que la plupart, on va dire que 80% sont des personnes qui ne font pas de prêts.
Est-ce que vous avez l'impression justement compte tenu de l'état du marché actuellement qu'il y a plus justement de demandes sur ces enchères dégressives, sur les enchères tout court, sur la nécessité de vendre et ne pas trouver d'acheteurs? Comment vous percevez le marché par rapport aux offres que vous proposez en fait?
Alors, on sent qu'effectivement l'acheteur cherche une solution pour acheter, dans tous les cas de figure. Maintenant, le fait est que les taux soient un petit peu plus élevés et grignotent sur leur budget, fatalement, s'ils ont besoin de 2 chambres, ils vont pas éliminer une chambre.
Ouais.
Donc, il faut bien trouver des solutions pour aller chercher finalement ce qui manque. Donc des fois, ben, c'est pas forcément des sommes astronomiques, mais ça va être 10, 20 000 euros que les personnes n'auront pas dans leur budget. Et grâce à ce système de vente aux enchères, ben, ils vont pouvoir espérer rapidier, le récupérer. Ouais. Voilà. Alors j'ai bien espéré. Des fois, ça fonctionne. Maintenant, moi, j'ai des exemples. Hein,
allez-y.
Merci, Marie. Allez, je me suis mis tout seul dans le... Donc moi, j'ai des exemples. Mais la première vente qu'on a pu faire, le bien était à 190 000 euros. Il est parti à 163 000.
Et le vendeur a réagi comment?
Ben, le vendeur, c'est nous.
Ah oui, c'était vous qui aviez acheté et qui aviez...
Voilà, donc de toute façon, les biens qu'on met nous en vente aux enchères, c'est nos biens.
Vous avez pleuré un peu ou pas?
Comment?
Vous avez pleuré un peu ou pas?
Bah, j'ai pleuré, oui, c'est sûr que j'ai un stock de mouchoirs, donc j'ai acheté des palettes.
Non, mais du coup, vous arrivez à vous y retrouver, bon?
Bien sûr, on s'y retrouve. On s'y retrouve, mais on fait aussi les choses dans le bon sens. En fait, c'était en plus en plein dans la période où il y avait vraiment plus d'acheteurs. Ouais. Donc on s'est dit, bah, quelle solution on peut amener pour finalement avoir une proposition? Parce que le but pour nous aussi, c'est d'acheter des biens puis de les revendre rapidement. Donc on va pas garder des stocks ad vitam aeternam pour les garder.
Et oui, vous êtes disruptif dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous inventez des solutions pour pouvoir relancer finalement les ventes.
Tout
c'est ça votre pari.
C'est ça notre
pari.
Votre
raison d'être.
Et aujourd'hui, ben on continue dans le sens, même si le marché en fait va un peu mieux aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé
en fin d'année dernière.
Un exemple,
surtout,
j'en ai d'autres. Mais derrière, effectivement, les gens cherchent quand même des solutions.
Mais du coup, est-ce que vous voyez quel type de biens vous allez récupérer? Est-ce que c'est des biens qui sont entre guillemets vendables rapidement malgré tout et que c'est simplement le marché qui fait que c'est plus compliqué aujourd'hui. Ou est-ce que vous avez, par exemple, je pense à quelque chose, énormément de passoires thermiques dont les gens cherchent à se débarrasser?
Dans ce qu'on achète?
Ouais.
Ah non, on a de tout. Aujourd'hui, on a autant des biens qui sont à refaire avec des travaux, comme on peut avoir de l'immeuble de 30 logements, comme effectivement on peut avoir une maison très jolie bord de la côte. Il n'y a pas de...
Vous ne sentez pas, par exemple, qu'il y ait une espèce de courage fuyant voilà.
Non, on n'a pas de type de produit. Je pense que tous les vendeurs aussi cherchent à vendre. Donc, dans tous les cas de figure, cherchent une solution.
Est-ce que vous en avez
qui... Donc, pour nous, c'est très bien, parce qu'on a des acheteurs qui cherchent des solutions et des vendeurs qui cherchent des solutions.
Et justement, vous avez des gens qui cherchent à faire la pirouette, qui n'arrivent pas à vendre et qui veulent racheter en parallèle, et avec qui vous pouvez rester, du coup, d'un bout à l'autre de la chaîne?
Tout à fait. Tout à fait. On peut aussi travailler en cascade, et ça nous est déjà arrivé. Le client peut être vendeur et acheteur d'un bien.
Bon, je vous pose une colle quand même, parce qu'il nous reste une minute. Il y a quoi en ce moment aux enchères dégressives chez vous? Dans quel secteur de la France on peut déjà dire à nos auditeurs et téléspectateurs d'aller...
Pour l'instant, cette phase d'enchères est quand même en test chez nous depuis quelques temps. Là, on en a refait la semaine dernière, et sur 3 biens qu'on a mis en vente, on en a vendu 2. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, ça reste plutôt dans le Doubs, le Haut Doubs. Et puis, on va exporter ça, en fait, un petit peu plus sur le reste de la France. Voilà.
Vous vendez, nous achetons. Pascal Py, cofondateur, a des solutions pour redynamiser les ventes immobilières sur notre territoire. Merci beaucoup d'être venu partager sentiment de marché immobilier. Marie, on se retrouve demain. Nous n'aurons pas d'experts pendant 30 minutes, mais nous aurons de l'expertise pendant 15 minutes au moins.
Mais oui.
On parlera demain...
Passoire un peu.
De
aussi.
Passoire. Vous voulez acheter une passoire thermique, mode d'emploi demain. Ouais. C'est la promesse de la séquence. Je vous précise que demain, il n'y aura pas d'experts d'immobilier parce qu'il y aura les experts du Bitcoin. Demain, c'est le halving. Le halving... Et disons programmé dans les prochaines 48 heures. Vous savez, tous les 4 ans, la production de Bitcoin est divisée par 2. Demain, on sera en équipe pour essayer de décrypter cet événement et savoir à quoi il faut s'attendre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Est-ce que ça aura un impact sur le Bitcoin? Pour vous qui faites peut-être partie de ceux qui considèrent le Bitcoin comme un actif comme les autres. À demain, Marie. Nous restons branchés sur vos finances perso dans Tout pour investir. À suivre, petite pause. Et juste après, nous parlerons tracker, nous parlerons ETF avec l'équipe de BNP Paribas Asset Management. À tout de suite.
BFM Business, Tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On répond à vos questions dans Tout pour investir le jeudi. Nous aimons bien parler tracker, nous aimons bien parler ETF. On se concentre sur les opportunités, les risques, mais aussi les tendances liées aux milliards de dollars et d'euros que ce secteur mondial des ETF, des fonds négociés en bourse, concentre. Aujourd'hui, pour en parler, c'est Jérémy Tubiana. Bonjour Jérémy.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes en charge du développement ETF et solutions indicielles pour la France, chez BNP Paribas AM. On va évidemment prendre le pouls, parce que là, on est au deuxième trimestre, et donc on a déjà quelques tendances qui se dessinent pour le début d'année. On va parler de flux. Quelques chiffres pour cerner le marché.
Alors, ce que l'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que déjà 2023 a été une des années records en termes de collecte. Cette année, la tendance est encore plus forte. C'est-à-dire qu'à période à mois équivalent, donc si je regarde par rapport à mars 2023, pour l'instant, la collecte est au-dessus de la collecte de l'année dernière. Donc on est vraiment sur une tendance qui est encore très positive, très poussive sur l'industrie ETF en Europe.
Pas poussive du coup, elle pousse littéralement.
Exactement. L'année dernière était une des années records et là on est au-delà de la collecte qu'on a connue l'année dernière à la même période. Ce qui va être un peu différent en 2024, c'est que la collecte est essentiellement action. Donc 80% de la collecte depuis le début de l'année est action. L'année dernière, pour vous donner un horizon de comparaison, on était plutôt à 40 voire 50% de la collecte à la même période sur le marché obligataire par exemple. Donc aujourd'hui, on n'est que à 20% de collecte sur les obligations et sur les actions, c'est toujours un peu pareil. Les actions monde, les actions US, les actions émergentes et les actions japonaises qui collectent principalement.
Donc la collecte action en forme, on le comprend, les indices boursiers se portent bien. Donc avec ces trackers, on a envie de miser sur les entreprises, simplement, et de répliquer ce que font les gros indices liés aux résultats d'entreprises, enfin aux entreprises. L'obligataire donne quoi alors ?
Alors, 20% de collecte, donc un peu en dessous, sans doute expliqué par le contexte de taux qui est peut-être moins favorable par rapport à l'année dernière. Et la collecte cette année se concentre principalement sur les obligations d'État américaines et sur le segment high yield. Bien que depuis début avril, on voit un regain d'intérêt sur le marché obligataire qui a représenté à peu près 30% de la collecte en avril.
Bon, une tendance qui pourrait continuer malgré le flou plus ou moins artistique qu'il y a autour de ce que vont faire les taux.
Bah, a priori, effectivement. Alors, ce qui va être intéressant de voir, c'est la richesse que vont apporter le développement d'ETF de manière générale sur le marché. On voit que les grosses innovations qui actuellement se tournent beaucoup autour des ETF obligataires, ça répond à un besoin. Mais encore une fois, je pense que les investisseurs recherchent sans doute la bonne opportunité, le bon timing par rapport aux annonces, notamment des banques centrales.
En tout cas, recherche de grande qualité et si possible de rendement, c'est ce que vous nous dites. Une dernière tendance que vous relevez ce matin avec nous, c'est la collecte sur tout ce qui est ETF, ESG. Racontez-nous.
Alors effectivement, c'est une donnée qu'on regarde beaucoup chez BNP Paribas Asset Management. Donc là, depuis début d'année, on est plutôt à 20% de collecte, enfin 20% des flux, pardon, qui sont représentés par des ETF ESG. Et ce qui va être très intéressant, c'est l'intérêt différent des clients en fonction des différentes approches ESG. Donc je m'explique. Les investisseurs plutôt institutionnels, les grandes institutions financières, les gros assureurs qui ont des horizons d'investissement vraiment très long terme, vont privilégier...
Est-ce que c'est très long terme ? Parce que vous savez, les horizons...
Alors, c'est au-delà de 10 ans, en fait. Hein. Quand je suis un assureur, par exemple, je regarde vraiment des horizons vraiment qui vont au-delà de 10 ans. Ils ont des convictions fortes autour de l'ESG et ils vont privilégier des investissements à forte exclusion. Ils vont privilégier des investissements ESG, par exemple, alignés aux accords de Paris, tout ce qu'on appelle les PAB. Et donc là, c'est marqué de façon très forte, gros intérêt pour les ETF ESG à forte exclusion de la part des institutionnels. Côté investissement plutôt retail, particulier, via les particuliers, on voit quand même de l'intérêt sur l'ESG, mais plus pour des investissements ESG qui ont moins d'exclusion
et donc moins strict.
Et ce qu'on dit aussi, comme c'est moins strict, il y a moins de déviation par rapport aux indices traditionnels. Et à côté, on voit
donc
beaucoup...
autrement dit, la performance est meilleure.
Bah, ça va dépendre des contextes, mais en fait, c'est vrai que l'investisseur particulier aime bien investir sur l'investissement ESG, mais avec des faibles déviations par rapport aux indices qu'il suit de manière générale.
On veut bien faire du vert, mais il faut que ça reste très rentable, quoi.
Faut que ça reste performant.
Pardon, je le dis avec mes mots parce que évidemment vous êtes un petit peu cornaqué. Bah, votre parole est un petit peu cornaquée, mais voilà, c'est ça l'idée.
Et ce qu'on voit aussi à côté, c'est beaucoup d'intérêt sur des investissements ESG thématiques. Donc là, on voit avec la démocratisation de l'épargne de manière générale, le fait que de plus en plus d'investisseurs veulent contribuer à des enjeux long terme, sociaux, démographiques, écologiques évidemment. Et donc, on voit beaucoup d'intérêt sur des ETF thématiques ESG.
Vous suivez ce secteur des ETF depuis longtemps. Justement, cette thématisation des ETF, qu'est-ce que c'est ? C'est un effet... générationnel, c'est-à-dire que les ETF, on sait, intéressent pas mal de jeunes investisseurs parce que peut-être c'est plus facile à comprendre que d'autres produits, d'autres placements, c'est aussi plus facile à acheter. Est-ce que c'est du marketing parce que c'est facile à marketer un thème par rapport à peut-être un indice ? Je ne sais pas, comment vous jugez cette mode du thématique ?
Alors, ce qu'on voit, moi je l'explique de la façon suivante. On voit depuis quelques années maintenant l'intérêt des investisseurs particuliers pour les ETF, et c'est vrai que quand ils ont commencé à investir sur des ETF, ils achetaient des indices plutôt traditionnels. Un indice monde, un indice français CAC 40, un indice américain. Et à mesure qu'ils ont... intégrer cette démarche d'investissement via des ETF, ils cherchent à diversifier. Et une des façons de diversifier, vous l'avez dit Lorraine, c'est investir sur des supports qui vont comprendre, vraiment qui vont comprendre clairement, et comme je le disais, qui vont leur permettre de contribuer à un enjeu particulier. Et donc du coup, c'est vrai que l'approche thématique répond clairement à ce besoin. Suivre une thématique, avec une totale transparence, une diversification, des frais réduits, toutes les caractéristiques que représentent les ETF, bah finalement, ça répond bien aux besoins des investisseurs particuliers aujourd'hui.
J'ai une réaction d'auditeur de Franck qui nous suit régulièrement et qu'on salue, qui dit oui, les ETF sont à la mode, mais je paraphrase un peu ce qu'il m'écrit, beaucoup de gens ignorent qu'ils ont déjà des ETF, notamment dans leur contrat d'assurance vie, et donc il y a une certaine hypocrisie en fait à dire que les gens se tournent vers les ETF alors qu'en fait ils en font sans le savoir, pour mal parler.
C'est vrai que depuis alors on parle de démocratisation encore une fois des ETF, notamment pour les particuliers dans les contrats d'assurance vie, et c'est vrai que ce que l'on observe, c'est l'accentuation l'augmentation de la présence des ETF dans ces contrats. Donc chez BNP Paribas Asset Management, on a fait une étude avec Cantalis, l'observatoire ETF, et en fait on recense que plus de 50% des contrats d'assurance vie français référencent au moins un ETF. Donc ce qui est plutôt pas mal. La deuxième stat qui ressort un peu de l'étude, c'est que le nombre d'ETF en moyenne a augmenté de 30% dans les contrats d'assurance vie. Donc, c'est vraiment des données intéressantes et qui donnent vraiment une tendance de fond. Et ce qui va être vraiment pertinent et intéressant, c'est que on va retrouver aussi bien ces ETF dans des contrats distribués via des plateformes digitales, mais également via des contrats d'assurance vie distribués par des banques privées ou des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Et donc, c'est là où on voit que l'offre s'étend et l'accessibilité des ETF est de plus en plus présente, bien que à côté on voit le développement de plateformes qui vont offrir des comptes titres ou des PEA. Mais dans l'assurance vie, c'est pas nouveau, mais on voit une accélération importante du référencement des ETF.
Est-ce qu'on peut dire que les ETF se démocratisent ?
Clairement, on parle même de retailisation. On a évoqué les flux tout à l'heure et beaucoup d'études parlent. Le terme qui est un peu utilisé, c'est la vague des ETF commence. Mais en réalité, c'est un peu étonnant quand on parle de ce terme-là, parce que on voit que les ETF ont déjà bien progressé depuis de nombreuses années.
On rappelle que ce sont des produits, on peut dire ça, qui existent depuis plus de 30 ans ou 40
exactement,
ans.
Exactement. Donc depuis les années 90 aux États-Unis, arrivé en France dans les années 2000. Donc effectivement, au départ très utilisé par les investisseurs institutionnels, et le contexte, inflation, baisse de taux, baisse de rendement des livrets d'épargne, font que les investisseurs s'intéressent, les particuliers notamment s'intéressent de plus en plus à leur épargne et donc cherchent des produits simples. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là quand on dit la vague ETF démarre ? En réalité, c'est justement ce sujet de retailisation. Le gros levier de croissance du marché des ETF, c'est l'accès par les investisseurs retail, donc particuliers, sur les ETF. Et donc, le marché de l'épargne grossit énormément, on le sait, et ça va passer notamment par l'intégration des ETF. On parle à peu près de 15% de croissance annuelle d'ici 2030.
En France ou
en Europe ? En Europe.
On sait, l'Allemagne est un marché très dynamique en termes d'ETF. La croissance en Allemagne, est-ce que vous avez une idée ?
Alors, la croissance en Allemagne est bien plus forte qu'en France, par exemple, parce que c'est un marché beaucoup plus précoce dans l'intégration des ETF, donc le développement des plateformes digitales qu'on évoquait, qui est déjà historique, assez historique en Allemagne, ne fait qu'arriver à peu près en France. La prise de conscience des Allemands sur comment bien gérer mon épargne, là aussi c'est un point intégré depuis bien plus longtemps, et c'est pour ça qu'effectivement les chiffres de collecte, alors j'ai pas de données précises, c'est toujours compliqué de donner des chiffres précis de collecte sur un pays donné. Pourquoi ? Parce qu'un investisseur allemand peut acheter un ETF sur la bourse de Paris, par exemple. Et réciproquement, un investisseur français peut acheter un ETF sur la bourse allemande. Mais ce que l'on voit, c'est la progression des encours, la progression des flux en Allemagne est effectivement bien plus forte. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tendance allemande se généralise partout en Europe et notamment en France.
On comprend ce que vous dites en sous-jacent, cette impression que les finances personnelles sont un sujet plus important. Finalement, la gestion passive, elle vient servir à une démocratisation de la finance.
Clairement. Et en fait, on a vraiment vu cette tendance. Alors, à partir du Covid, le Covid a été vraiment un déclencheur pour beaucoup, pour s'intéresser à son épargne. J'ai un peu plus de temps, je comprends un peu plus ce qui se passe, et donc je m'intéresse à la bourse et je vais le faire via les ETF. Mais ce qui est là aussi intéressant, c'est que on parle du Covid, mais c'est vrai que historiquement, on avait quand même de nombreux investisseurs qui s'intéressaient aux ETF déjà. Mais en fait, en réalité, c'était pas forcément des experts de la bourse. C'était simplement des gens qui s'intéressaient à leur épargne. Et dans la mesure où je m'intéresse à mon épargne, bah, je vais chercher des produits simples que je vais comprendre, transparents, diversifiés, avec des frais réduits. Et donc, forcément, je vais regarder les ETF.
On parle de démocratisation, on parle beaucoup des ETF Bitcoin, maintenant Ether, qui ont vu le jour aux États-Unis. Est-ce que, justement, vous sentez, c'est une question de tendance, hein, est-ce que vous sentez, Jérémy, que, justement, la population crypto arrive sur les ETF via ces produits qui voient le jour?
Alors, c'est vrai que...
Est-ce que c'est un flux assez important pour qu'on le remarque?
Alors, on ne peut pas vraiment lier ces deux tendances, mais ce qui va être intéressant, c'est le fait que de nombreuses plateformes ayant offert justement l'accès à des crypto-monnaies, par exemple, offrent également l'accès à des ETF, et donc encore une fois, dans ce sujet de diversification de son épargne, et là encore, hein, l'approche ETF, c'est une approche long terme, diversifié, c'est vraiment une logique, hein, vraiment différente de l'approche crypto-monnaie. Et on voit que cette culture de j'achète des produits, j'investis sur des produits financiers pour préparer ma retraite, préparer mon épargne sur du long terme, effectivement, on voit que cette génération utilise de plus en plus des ETF.
Cette génération, cette population cryptophile.
Qu'on appelle d'ailleurs do it yourself. Donc, c'est les investisseurs qui se débrouillent un peu tout seuls.
Absolument. Et qui, sur l'interface de leur plateforme d'achat de produits financiers, se retrouvent en fait plus facilement confrontés à la fois aux cryptos et aux ETF. C'est ça que vous nous dites. J'ai une question d'Adrian. Vous allez me dire si vous pouvez répondre des beautés. Il nous suit sur LinkedIn. C'est un auditeur fidèle, on le salue. Il nous écrit « Est-ce qu'il y a un biais qui fait monter la valorisation sur les big caps vu que tout le monde en achète ? Est-ce que ce n'est pas préférable de se positionner sur des ETF moins populaires que ceux sur les grosses valorisations ? Est-ce que vous comprenez sa question et comment on peut lui répondre ?
J'ai du mal à bien la comprendre.
Adrien, il faut que vous nous écriviez un petit peu plus.
Mais peut-être que la question sous-jacente, c'est de savoir est-ce que les ETF entraînent une dynamique de flux à la hausse ou à la baisse ? Peut-être que c'est le point, parce que c'est souvent une question qui revient.
Moi, je comprends. Est-ce que si tout le monde mise sur un ETF qui réplique le Nasdaq, du coup, ça fait monter le Nasdaq, et du coup, est-ce que quelque part, c'est pas un cercle vicieux ou vertueux ?
Alors, pour répondre à cette question, je vais donner en fait des chiffres de ce que représentent les ETF aux États-Unis ou en Europe dans la gestion d'actifs au global. Aux États-Unis, par exemple, le marché des ETF, de la gestion passive, représente à peu près 50% des encours. En Europe, c'est à peu près 15%. C'est beaucoup plus faible. Encore une fois, la tendance est encore importante. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que les ETF entraînent une dynamique à la hausse ou à la baisse d'un marché financier. Et le bon exemple, c'est justement la crise du Covid, où on a vu les marchés fortement baissés. Et ce qui était vraiment hyper intéressant de remarquer sur l'industrie ETF, c'est que bien que le marché baissait en Europe, les ETF collectaient. Donc, ce qui démontre finalement que ce ne sont pas les ETF qui ont entraîné une dynamique de baisse des marchés financiers.
Voilà, Adrien, on espère vous avoir répondu. Merci Jérémy, Tibiana et l'équipe de BNP Asset Management d'avoir été avec nous pour cette séquence ETF régulièrement le jeudi à 11h30. À retrouver en podcast ou en replay d'ici quelques minutes sur notre site BFM Business et notre application. On va reparler un peu d'ESG pour finir cette émission. On va être avec l'équipe de Kimpa pour réfléchir à comment investir en famille dans un avenir durable. Comment mettre vos enfants au boulot ou vos parents au boulot. Tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement et en famille, c'est l'objet de cette séquence avec vous, Brune Ribadeau-Dumas. Bonjour.
Bonjour, Lorraine.
On va réfléchir avec vous sur comment impliquer ses enfants, mais si on est enfant, impliquer ses parents, on va essayer de faire ça dans les deux sens, dans l'investissement à impact positif. Vous êtes directrice des solutions d'investissement chez Kimpa. D'abord, est-ce que ce n'est pas le moment de parler finance en famille quand on parle avenir et durabilité?
C'est le moment, effectivement, parce qu'on le sait que l'investissement aujourd'hui, c'est l'un des leviers les plus importants pour essayer de résoudre ces enjeux environnementaux et sociaux. On sait aussi que si on arrivait à diriger 10% de tous les capitaux dans le monde vers ces projets, on arriverait à enclencher la transition écologique. Sauf que, par définition, la transition écologique, c'est du long terme. On ne peut pas faire ça sur une génération.
Alors, c'est quoi votre définition de long terme?
Le long terme, c'est de pouvoir enclencher dès maintenant notre projet, mais pouvoir aller sur des investissements qui vont potentiellement avoir plus que 5 ans, plus que 10 ans. Et donc, il faut enclencher les enfants dans cette démarche-là, parce que c'est eux qui vont pouvoir gérer aussi le patrimoine et qui vont avoir cette responsabilité de diriger les capitaux de ce patrimoine dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, toujours vers ces projets-là.
Alors, je ne sais pas à quels parents on s'adresse, parce que je pense que les plus jeunes parents, mais c'est peut-être un préjugé, vous allez me dire, les plus jeunes parents sont déjà assez branchés thématiques durables. Les plus vieux parents le sont-ils aussi? Est-ce que vous observez chez Quimpa
un
intérêt pour la durabilité qui est corrélé à l'âge ou pas du tout?
Pas du tout. En fait, on voit effectivement des enfants, la nouvelle génération, dès leurs 14, 15, 16 ans, ils vont vouloir motiver leurs parents à changer un petit peu les choses. Mmh. Mais on voit des parents même qui ont 50, 60, 70 ans, qui veulent déjà changer et transformer leur patrimoine parce qu'ils savent que leurs enfants, qui peuvent avoir 20, 30, 40 ans, ne veulent pas récupérer leur patrimoine tel quel. Donc ils veulent pouvoir les enclencher, les éduquer et que ce patrimoine soit récupéré et dirigé à bon escient. Les enfants ne veulent pas le patrimoine de leurs parents s'il n'est pas bien utilisé.
Alors vous allez nous donner une grille d'action, une méthode pour engager ses enfants, si on est dans une logique d'engager ses enfants, ou peut-être ses parents, si on est des enfants et qu'on investit avec ses parents. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Déjà, il faut choisir le bon type d'actif pour investir. Il y a des investissements qui sont beaucoup plus attirants pour impliquer la nouvelle génération que d'autres. Quand on va proposer à des enfants de rencontrer des entrepreneurs qui montent des solutions innovantes dans des start-up, forcément, ils vont être beaucoup plus impliqués que si on leur dit qu'on va investir dans un énième fonds immobilier à l'autre bout de la planète. Donc, il faut choisir le bon type d'actif.
Même si l'immobilier fait sa mue.
Même si, effectivement, c'est l'immobilier. Mais rencontrer, être au plus contact des entrepreneurs et des solutions innovantes, ça va en généralement beaucoup plus attirer les nouvelles générations. Et puis ensuite, il faut faire ça ensemble. Donc, il faut définir un cahier des charges, une feuille de route. Nous, on travaille avec le sujet de la thèse d'investissement impact.
Oui.
On va faire répondre l'ensemble des personnes d'une famille à des questions pour essayer de définir quelles sont les valeurs de la famille, la mission de la famille et les grands enjeux de développement durable qu'ils veulent adresser dans leur thèse d'investissement à impact. Ça peut être la fin de la pauvreté, la fin dans le monde, le changement de l'utilisation de l'énergie, l'économie circulaire. Il y a plein de sujets différents et il faut trouver les sujets qui rassemblent les personnes d'une même famille.
C'est-à-dire qu'on s'assied en famille pour parler de son projet de famille, mais appliqué à la finance.
Exactement. Et qu'est-ce qu'on veut voir? Quelles sont les valeurs qu'on veut voir dans son patrimoine pour trouver après les secteurs dans lesquels on va pouvoir investir.
Bon, la famille, c'est compliqué parce que d'abord, tout le monde n'a pas le même temps à allouer à la gestion de l'argent. Ensuite, quand on est une famille, généralement, l'argent vient plutôt des parents. Donc, est-ce que quand on est enfant, on est en droit et en envie d'aller gérer l'argent de ses parents, sans parler de quand on est parent, est-ce qu'on a envie de laisser ses enfants gérer son argent? Enfin, vous voyez, il y a un problème de gouvernance. Alors, comment vous faites chez Quimpa pour gérer des clients qui arrivent, qui disent, voilà, nous, on est une famille, on investit, on a un véhicule d'investissement familial. Comment vous faites pour mettre un peu d'ordre et de gouvernance là-dedans?
Mais exactement. L'idée, c'est de professionnaliser la démarche d'impact dans une famille et que ça ne se fasse pas au petit déjeuner ou juste entre les parents. Et donc, pour ça, nous, chez Quimpa, on a des experts de la gouvernance familiale qui vont parler à l'ensemble des membres de la famille et qui vont essayer de trouver justement les valeurs communes qui vont forcer personne. Il y a des personnes dans une famille qui ne veulent absolument pas s'impliquer, d'autres qui ont envie d'y aller et donc mettre les bonnes personnes au bon endroit pour essayer après de trouver les meilleurs projets. Donc, on va créer des comités. On va créer par exemple un comité de sélection des projets dans lesquels on va investir. Donc, ce n'est pas qu'une fois qu'on investit, c'est dès le début. On va créer des comités de suivi des participations et ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont s'impliquer à chaque fois.
Est-ce qu'on peut exclure quelqu'un de ce comité?
Alors, si la personne n'a pas envie d'être présente dans ce comité, elle peut évidemment ne pas l'être. Et elle peut dire, moi, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Peut-être je veux un autre rôle, peut-être que je veux venir plus tard, je veux faire autre chose.
Est-ce qu'on peut mettre des personnes externes à la famille dans ce comité, dans une logique de conseil, voilà, comme on pourrait avoir dans un board quelqu'un d'extérieur? Comment vous organiser ça?
Exactement, on peut, de la même façon qu'un conseil d'administration, un board d'une entreprise, on peut avoir des gens qui sont externes à la famille et on peut avoir des gens qui sont simplement observateurs et conseillers. Nous, c'est ce qu'on fait généralement. On a des personnes au sein de Quimpa qui vont être dans ces familles, au sein des comités, pour les aider à s'aligner, à prendre les bonnes décisions et trouver les bons projets qui vont tous avoir un impact fort.
Par souci de pédagogie et pour finir cette séquence, Brune, vous nous suggériez de prendre un exemple très concret. L'exemple d'une famille. Alors racontez-nous cet exemple pour convaincre ceux et celles qui nous écoutent.
Effectivement, donc c'est une famille qui a une entreprise familiale de deuxième génération, qui a donc ses deux parents qui ont trois enfants âgés de 14, 20 et 21 ans et qui ont envie que tout le patrimoine qui a été généré depuis la première génération soit transmis à la troisième
deuxième génération. Sauf que les enfants, eux, ont une volonté d'impact très très fort, et donc ils ont voulu travailler ensemble en famille. On a défini la mission de la famille, les valeurs, et on a défini les grands enjeux de développement durable qu'ils voulaient adresser. L'un d'entre eux, c'était l'agriculture durable, par exemple. Et donc nous, on a créé un comité de sélection avec le fils aîné et les deux parents. Tous les mois, on leur propose des opportunités d'investissement impact. Aujourd'hui, ils ont réalisé une dizaine d'investissements grâce aux investissements qu'on leur a proposés, et notamment 5 d'entre eux dans ce secteur d'investissement de l'agriculture durable, dans deux start-up par exemple, l'une en Finlande qui fabrique du charbon pour améliorer le rendement des sols, et l'une en France qui est Genesis, qui est une entreprise qui est une agence de notation de la santé des sols. Et les enfants étaient là dès le début pour sélectionner ces projets-là. Ils sont aux membres du conseil d'administration pour suivre les projets, et ils nous demandent chaque trimestre comment est la santé de l'évolution de leur portefeuille.
Cette gestion familiale par rapport à une gestion individuelle, est-ce qu'elle est plus chronophage ?
Elle n'est pas plus chronophage si on est bien accompagné et si on a bien défini dès le début quelles sont les thèses d'investissement. Parce qu'en fait, après, dès qu'on va sélectionner un potentiel projet, on va se référer à cette thèse d'investissement et on va voir si ça matche ou pas. Si ça matche pas, on n'investit pas. Si ça matche, c'est que tout le monde était d'accord dès le début pour investir là-dedans.
Et cette thèse d'investissement, comment vous la mettez à jour au fil des années et au fil des innovations ? Puisque là, vous avez noté, vous avez suggéré deux entreprises, bon, qui sont des assez jeunes entreprises, une qui s'appelle Carboculture et une autre qui s'appelle Genesis. Voilà, ces entreprises, il y a aussi une probabilité qu'elles ne fonctionnent pas ou au contraire qu'elles grossissent. Comment, voilà, pour conclure, comment on continue à se mettre à jour ?
Exactement. Bah, tous les ans, on va retravailler avec la famille pour leur proposer d'autres potentiels investissements, d'autres potentiels secteurs, et on va réactualiser cette thèse pour qu'elle reste effectivement à jour des grandes tendances. Aujourd'hui, on parle de grandes tendances d'investissement impact. L'année prochaine, ce sera peut-être d'autres. Et nous, on va travailler avec eux, mais il faut être bien accompagné pour ça.
Vous viendrez nous faire les grandes tendances la prochaine fois.
Parfait.
Les grandes tendances de l'investissement à impact tel que vous le percevez chez Quimpa pour 2024. Peut-être on pourrait faire un horizon un peu plus long. Vous voyez, on parlait du long terme. Tout à l'heure, dans la séquence ETF, on se posait la question de qu'est-ce que c'était le long terme. Peut-être pourrait nous faire un petit exercice de projection.
Sur les prochaines années, parfait. Très bien.
Merci beaucoup, Brune Ribadeau-Dumas, directrice des investissements chez Quimpa, avec nous sur ces sujets investissement à impact, mais aussi culture familiale, culture d'investissement, comment transmettre ces valeurs et ces méthodes d'investissement d'une génération à l'autre et investir ensemble. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay si vous l'avez attrapé en cours de route, comme l'ensemble de nos séquences. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toutes et à tous pour vos messages. J'espère qu'on a pu répondre à quelques-unes de vos questions. Vous continuez à nous écrire. L'émission est déjà disponible, vous l'avez entendu, en podcast et en replay, où elle le sera d'ici quelques minutes sur notre plateforme et notre site web. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On a prévu de parler d'achat de passoires thermiques. Mode d'emploi, si vous envisagez d'acheter une passoire ou une bouilloire thermique, demain, on vous donne une grille d'achat ou de on vous découragera, je ne sais pas, on verra ça demain. Et puis demain, surtout, on sera en spécial halving. Tous les 4 ans, la production de Bitcoin est divisée par 2. C'est le halving. Il y en a déjà eu 3. Et le prochain est prévu pourquoi ? Demain, après-demain, on ne sait pas trop.
Demain, dans la soirée, pour l'instant, mais ça peut encore changer.
Le Bitcoin a déjà battu des records depuis le début de l'année 2024. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours ? On essaiera de réfléchir à ça avec vous, Amaury Tonquédec, demain, et notre équipe d'experts. D'ici là, votre dose de crypto, c'est à 15h. Avec vous, Amaury, quel est le programme de BFM Crypto ?
On se prépare pour demain, pour le halving, et on va se demander si finalement, effectivement, vous l'avez dit, Lorraine, il y a déjà eu 3 halvings, là c'est le 4e. On va se demander si celui-là ne va pas être différent des autres pour pas mal de raisons. Et on prendra un peu le pouls des mineurs, les mineurs de Bitcoin, puisque leur récompense va être divisée par 2. Donc il y en a qui vont survivre, peut-être pas tous. Bon, on espère pour eux que ça va aller, mais on va prendre un peu le pouls, leur santé financière, on va dire. Et puis on parlera de blockchain public et privé. Les investisseurs institutionnels investissent de plus en plus les blockchains publics qu'ils boutaient jusqu'à présent. On va voir quelle est la différence et pour quelle raison.
Peut-on faire confiance au public pour gérer la blockchain ? Jean-Marc Daniel est déjà arrivé en studio. Il fait sa tête de crypto-sceptique. BFM Crypto, le club, c'est tous les jours à 15h, mais aussi à 21h30, juste après Tech & Co. Et puis, vous le savez, comme l'ensemble de nos programmes, en podcast et en replay. Sandra Gandon est également arrivée.
Bonjour Lorraine.
Bonjour Sandra. Aux manettes d'avec vous, tous les jours de midi à 13h, quel est le programme du jour ?
Plein de questions encore aujourd'hui. La vie en open space, pour ou contre ? Comment pimper sa boîte sur les réseaux sociaux ? Parler de réseaux pro quand on est patron et surtout quand on est patronne, est-ce que c'est important ? Et ouvrir son commerce le dimanche avec les jeux qui arrivent, la question se pose pour pas mal d'entre vous. Vous continuez à nous écrire, à nous poser vos questions. On est en live dans un instant sur nos réseaux sociaux et puis cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr pour toutes les questions sur la vie du bureau, pas trop indépendant salarié, c'est pour tout le monde.
Collègue, moi j'ai été en open space à la fois à côté de Sandra et à côté d'Amaury. Dans les deux cas, je vous dis que c'est un combat quotidien de garder la ligne parce que nous ne faisons que manger à la rédaction.
Il y a ce problème.
C'est tout à l'heure avec vous, on parle des sujets qui concernent la vie d'entreprise. L'adresse est avec vous à bfmbusiness.fr. Vous restez branchés, il est 11h56. Bonne écoute sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.